Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous sur Europe 1, ravi de vous retrouver pour 2 heures d'information, d'analyse, de débat. C'est votre grand journal du soir. Dans un instant, c'est l'information du jour avec vous, Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, l'âge pivot va-t-il être retiré? La CFDT attend un geste, réponse normalement avant ce soir du Premier ministre, encore qu'on n'a pas de certitude. On vous en parle dans un instant, dans le 18h, à 18h20 précisément, je recevrai le patron de Force Ouvrière, Yves Verrier, qui lui reste déterminé contre cette réforme. 18h30, le débat des grandes voix sur cette nouvelle journée marathon à Matignon. 19h10, c'est alors qu'Anne Hidalgo doit annoncer sa candidature à Paris. L'invité politique sera son challenger, Benjamin Griveaux, de La République En Marche. Enfin, 19h30, un grand monsieur, l'académicien et écrivain, Éric Orsenna, pour son tout dernier ouvrage. L'info qu'il vous faut, c'est sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir, et c'est jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
On a senti, je vais le dire, une volonté d'ouverture dans la parole. Tout ça se mesure in fine aux actes.
Est-ce un signe? Il arborait en tout cas un léger sourire ce soir pour une fois. Laurent Berger qui reconnaît donc une volonté d'ouverture à l'issue de la réception des syndicats à Matignon. Même sur le fond, pour l'instant, on est guère plus avancé.
Mais oui, sur le terrain, les actions coup de poing d'ailleurs se poursuivent à Toulouse. C'est le siège d'AXA qui a été occupé aujourd'hui par des manifestants.
Eux attendent Emmanuel Macron de pied ferme. Le président, face au défi de la Convention citoyenne pour le climat, face ce soir aux 150 Français tirés au sort et qui planchent sur la question.
Tous deux avaient 28 ans. La fille de Georges Salines, Lola, tuée le 13 novembre au Bataclan.
Et le fils d'Asdine Amimour, Samy, qui est l'un des 3 terroristes qui ont massacré 90 personnes cette nuit-là, alors que tout devait les opposer, eh bien ces deux hommes meurtris par la perte de leur enfant ont décidé d'écrire ensemble un livre.
Pourquoi je me méfierais de cette démarche, de cet homme qui n'est pas directement responsable des actes de son fils?
Dans l'actualité également, la piste d'un tir accidentel de missile qui se précise après le crash d'un avion ukrainien en Iran.
Et puis belle promotion pour Belle Île en Mer, le New York Times, rien que ça, estime que l'île bretonne fait partie des lieux à visiter absolument en 2020.
La nature sauvage de Belle Île en Mer, il y a une atmosphère sur l'île qui évoque le rêve, la poésie, la tranquillité.
Et en attendant d'aller à Belle-Île, la Bourse de Paris a fini quasi stable, moins 0,09% à 6037 points.
Et bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La météo ce week-end avec vous?
Alors, demain la journée s'annonce ensoleillée au sud, beaucoup plus nuageuse sur le reste du pays, mais pas de pluie, le temps reste sec. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Isabelle Millet, Nathalie Lévy.
Laurent Berger à sa sortie de Matignon cet après-midi. Bonsoir Emmanuel Dutaille.
Alors on va peut-être écouter d'abord Laurent Berger, Nathalie, si vous le voulez bien, parce que c'est donc un ballet de syndicalistes, comme vous le savez, qui a défilé toute la journée à Matignon. Alors il n'y a pas eu de miracle, les désaccords persistent, on n'a pas encore sorti de la crise, mais personne n'est sorti en claquant la porte, c'est déjà un bon début. Et le ton a, semble-t-il, légèrement évolué. Et l'objet de cette réunion, vous le savez, c'était de discuter de la tenue d'une conférence de financement sur l'équilibre du système de retraite. Et donc, celui qui était le plus attendu, c'est effectivement Laurent Berger de la CFDT. Écoutez-le à sa sortie de Matignon.
On a essayé d'argumenter. Pourquoi? Sur la question de cet âge d'équilibre, on a essayé de dire qu'une mesure aveugle et injuste comme celle-ci n'avait pas lieu d'être dans le projet de loi. Le Premier ministre nous a dit qu'il répondrait assez vite, assez rapidement, pas plus de précision, à ses préoccupations. On a senti, je vais le dire, une volonté d'ouverture dans la parole. Tout ça se mesure in fine aux actes. Évidemment, nous n'avons pas eu les réponses ce soir. J'espère très très vite, parce que ça n'a que trop duré. Et donc la CFDT continue de revendiquer la fin de l'âge pivot dans cette loi. Je vous avais bien compris qu'on attend un geste. Et ce geste, c'est celui qu'on attend dans les jours à venir ou rapidement, comme nous a dit.
Voilà, Laurent Berger à sa sortie de Matignon tout à l'heure. Bonsoir Emmanuel Dutheil.
Bonsoir.
Bienvenue cette fois. On y est, chef du service économie d'Europe 1. On a compris que tout n'était pas réglé, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la première vraie journée de négociation constructive?
Bon, en tout cas, est-ce qu'il faut y voir un signe? Laurent Berger a presque arboré, allez, on va dire, un demi-sourire à la sortie de son entrevue avec le Premier ministre. Le ton, on vient de l'entendre, est quand même moins énervé que ces derniers jours. Alors, en plus, un point important, Édouard Philippe, là, va s'exprimer d'une minute à l'autre dans la cour de Matignon. Va-t-il justement accéder à la demande des syndicats réformistes de supprimer ce fameux âge pivot tout de suite? Rien n'est moins sûr pour le moment, car il faut trouver une mesure aussi efficace pour ramener le régime à l'équilibre. On sait que les besoins de financement sont d'un peu plus de 10 milliards d'euros d'ici 2027. C'est exactement, justement, ce que permet d'économiser l'âge pivot, a fait savoir, comme par hasard, aujourd'hui Matignon. Alors, si cet âge pivot devait être supprimé, c'est sûrement un cocktail de mesures différentes, travailler un peu plus longtemps, hausse symbolique des cotisations, etc., qui pourrait être mise en place. Car pour que tout le monde sorte la tête haute de ce conflit, personne ne peut totalement se renier. Les syndicats ont besoin d'avoir la tête de l'âge pivot pour convaincre une base qui est quand même encore bien mobilisée, notamment à la SNCF et à la RATP. Et lui, le gouvernement a besoin de réussir l'équilibre financier sans trop lâcher sur les régimes spéciaux pour prouver sa capacité à réformer. Le chemin à trouver est très étroit.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Alors on attend la parole d'Edouard Philippe. Et à 18h20, mon invité dans ce studio, Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Lui, il a été reçu ce matin déjà à Matignon. Et pour l'instant, lui ne parle pas d'ouverture ni de compromis.
En tout cas, parallèlement à ces discussions, plusieurs actions coup de poing ont été organisées aujourd'hui un peu partout en France.
Comme à la gare Saint-Charles par exemple. Ce matin, où le trafic des trains a momentanément été paralysé par des manifestants qui sont descendus sur les voies directement.
Oui, la ministre de l'Enseignement supérieur et la présidente de la région Île-de-France ont-elles dû être évacuées d'un salon post-bac à Paris après l'irruption d'une centaine de profs grévistes, tandis que plus d'une centaine d'avocats ont manifesté dans le palais de justice de Paris où se trouvait Nicole Belloubet. Ils ont symboliquement jeté leur robe noire, ils se sont allongés par terre et réclamé la démission de la ministre de la Justice.
Action à Toulouse également, au siège régional du groupe AXA. Écoutez d'ailleurs le reportage de Benjamin Péter.
L'objectif est resté secret jusqu'au bout pour éviter tout comité d'accueil des forces de l'ordre. Les 200 enseignants, cheminots ou personnels du CHU ont d'abord pris le métro jusqu'au terminus. Puis après un petit sprint, ils ont rejoint le siège de l'assureur AXA pour une occupation des lieux. Pour Christine, qui est enseignante, c'est un moyen de montrer que la mobilisation ne s'essouffle pas.
On voulait montrer qu'on était toujours là, mobilisés, et qu'on ne faiblit pas, même s'il y a des négociations en cours qui pour l'instant ne donnent rien. Je suis prof de maths, j'ai compris très rapidement que j'allais perdre beaucoup. Alors je perds un jour de grève, je suis en grève depuis le 5 décembre, reconductible, et je continuerai tant que ça ne sera pas retiré.
Yann est représentant Sudrail. Pour lui, l'objectif de cette action n'a pas été choisi au hasard.
Les vrais gagnants aujourd'hui de cette réforme de retraite à points, ce seront les compagnies d'assurance, les grandes banques. Le gouvernement fait le choix de réinjecter plusieurs centaines de milliards dans les machines à spéculation, mais ça c'est pas possible.
Toujours en chantant, les grévistes ont finalement grimpé dans les étages pour déployer une immense banderole avant de quitter les lieux par petits groupes, escortés jusqu'au métro par les gendarmes. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe.
Voilà pour cette action donc aujourd'hui à Toulouse. Notez que le syndicat CGT de la Banque de France annonce le dépôt d'un préavis de grève reconductible à partir de lundi dans deux centres en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, des centres qui traitent plus du quart des billets du pays. Une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle est prévue demain, avec encore pas mal de manifestations et puis des perturbations aussi dans les transports. Avait noté quand même une nette amélioration à la RATP qui communique ce soir, nette amélioration par rapport au week-end précédent. Toutes les lignes de métro seront ouvertes en journée, pour certaines partiellement, mais en tout cas ce sera la première fois depuis le 5 décembre.
Autre actualité, ça se passe ce soir. Ils sont 150 citoyens chargés de plancher dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, lancée pour répondre à la crise des gilets jaunes et au réchauffement climatique.
Ça fait 4 mois maintenant qu'ils étudient les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils s'apprêtent à recevoir ce soir, tout à l'heure, la visite d'Emmanuel Macron. Claudia Bertram, vous êtes déjà sur place. Vous les avez rencontrés, ces citoyens. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'avenue du président ?
Eh bien, c'est à leur demande qu'Emmanuel Macron vient répondre à leurs questions. Il doit arriver d'ici une demi-heure. Le président ne vient pas pour faire un grand discours. Il veut répondre aux interrogations, assure l'Élysée. Le chef de l'État l'a dit dans ses vœux le 31 décembre. Il attend beaucoup de cette convention. Et William Aucan, l'un de ses membres, salue sa venue.
La venue du président et le fait d'avoir aussi eu ses vœux orientés vers nous a donné un petit coup de projecteur à notre travail. Je trouve que c'est important qu'il s'y intéresse, qu'il s'y implique. Il nous a confié cette mission. Là où on l'attend, nous, c'est sur l'après.
Effectivement, ils sont plusieurs à m'avoir confié, comme Martine Rousset, attendre avant tout des garanties sur la suite qui sera donnée à leurs travaux.
On attend d'être entendu, que nos propositions fassent l'objet d'écoute et de projets de loi et qu'on aille plus loin.
Emmanuel Macron s'était engagé à ce que leurs propositions puissent être examinées sans filtre au Parlement, voire par référendum. Les conclusions de la Convention citoyenne lui seront remises en avril.
Claudia Bertram au siège du Conseil économique et social et environnemental à Paris, où l'on attend donc l'arrivée imminente d'Emmanuel Macron.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Isabelle Millet, Nathalie Lévy.
Et à suivre dans cette édition de 18h, quand le père d'une victime du Bataclan et celui d'un terroriste dialogue, ça se passe dans un livre.
Et puis Belle-Île en mer, destination incontournable en 2020. C'est le New York Times qui le dit.
Toute l'info qu'il vous faut, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1 et c'est votre grand journal du soir. Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Nathalie Lévy, Isabelle Mille.
Et parce que c'est une démarche inédite et ô combien symbolique, on avait envie de donner la parole à deux pères ce soir. Le premier a perdu sa fille dans l'attentat du Bataclan. Le second est le père de l'un des terroristes.
Georges Saline et Azdine Amimour ont décidé il y a 3 ans de cela, de se rencontrer. Et ils ont appris à se respecter.
Oui, car finalement, tous les deux ont perdu un enfant le soir du 13 novembre 2015. Ensemble, ils ont donc décidé d'écrire un livre qui vient de sortir, intitulé « Il nous reste les mots ». Des mots qu'ils ont couchés sur le papier avec énormément de dignité et de respect.
J'étais surpris, voire légèrement inquiet de savoir qu'est-ce que le père de Sami Amimour pouvait bien me vouloir. Donc, effectivement, je lui ai fait un peu préciser les choses. J'ai réfléchi aussi, je me suis dit pourquoi je me méfierais de cette démarche, de cet homme qui n'est pas directement responsable des actes de son fils. Pour moi, ça reste une question fondamentale. Comment on devient terroriste ?
On peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais sur le fond, on est d'accord à 100%. Ce n'est pas ma perception de l'islam.
Est-ce que vous avez peur qu'on vous reproche ce livre ?
On rencontre toujours des gens qui vous haïssent parce que vous ne haïssez pas suffisamment à leur goût. Ils nous reprochent, d'être des naïfs, des idiots utiles. Or, d'abord, des islamo-gauchistes. Alors, d'abord, c'est faux. Politiquement, c'est beaucoup plus efficace pour lutter contre l'islamisme de dialoguer. Je crois que c'est intéressant de garder cette capacité.
Voilà, Georges Saline et Azdine Amimour, des propos recueillis pour Europe 1 par Angèle Châtelier. Le mystère du missile qui aurait touché l'avion ukrainien mercredi près de Téhéran, entraînant son crash et la mort de 176 passagers. Bonsoir Rémi Botsaron. Alors, toujours aucune certitude, mais la thèse d'un tir en provenance d'Iran se précise.
Oui, et cette fois, c'est Washington qui officiellement privilégie cette thèse. Il est probable que l'avion a été abattu par un missile iranien. Déclaration du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, il y a quelques instants. Les États-Unis se rangent donc aux côtés du Canada, du Royaume-Uni, mais aussi des Pays-Bas qui avaient tous déjà accusé un peu plus tôt la défense anti-aérienne iranienne. C'est la thèse d'un tir accidentel qui est privilégiée. Il faut rappeler que l'Iran était, au moment du crash mercredi, dans l'attente d'une riposte américaine, ce qui pourrait expliquer la nervosité de ses forces armées. Mais ce scénario d'un tir de missile est toujours fermement démenti par Téhéran. L'Iran a proposé à Boeing, mais aussi aux enquêteurs canadiens et ukrainiens de participer à l'enquête. Des experts ukrainiens sont déjà sur place et ils ont eu accès aux boîtes noires. Avancée donc significative pour cette enquête, à l'issue de laquelle les États-Unis promettent déjà de prendre, avec le reste du monde, des mesures appropriées.
Précision signée Rémi Botsaron, merci beaucoup.
Il est 18h13 sur Europe 1, la suite du journal Nathalie Lévy, Isabelle Mille.
Et on aurait pu en douter vu le climat de ces derniers mois, mais la France fait toujours rêver à l'étranger.
Selon le classement du prestigieux quotidien américain The New York Times, publié chaque année en janvier, très suivi par les amateurs de voyage, Paris figure parmi les 50 lieux à découvrir d'urgence en 2020. Paris, mais aussi Belle Île en Mer.
Et oui, classement validé par moi-même et par tous les amoureux de cette île bretonne. Les journalistes du New York Times trouvent que Belle Île se distingue comme l'une des destinations les plus vertes et les plus vierges de France. Le maire de la commune du Palais, le port où accostent les bateaux en provenance de Quiberon, s'en réjouit, même s'il tient bien sûr à préserver son île.
On a été ravis de constater qu'effectivement, on avait pu être parmi les 2 destinations françaises à visiter parmi les 50 dans le monde, selon le New York Times. Donc c'était plutôt quelque chose de gratifiant, mais très surprenant. Mais en tout cas, on a appris cette nouvelle avec beaucoup de bonheur.
À votre avis, qu'est-ce qui a convaincu ce journaliste ? Qu'est-ce qui lui a plu particulièrement ?
Je pense qu'il a dû tomber amoureux de nos espaces naturels, de la nature sauvage de Belle-Île-en-Mer. Et puis, il y a une atmosphère sur l'île qui évoque le rêve, la poésie, la tranquillité. On n'attend pas une fréquentation supplémentaire, d'abord parce que ce n'est pas souhaitable de tendre vers un tourisme de masse. On ne va pas doubler les rotations de bateaux. Et puis, il y a beaucoup d'occasions de venir à Belle-Île en dehors des pics de fréquentation. Par exemple, aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, je suis sur le bateau, je suis en train de quitter Quiberon. Il y a un magnifique coucher de soleil sur une mer un peu houleuse et magnifique qui vient briser les rochers. Enfin voilà, il y a des multiples façons de découvrir notre île et en tout cas, ce havre de paix.
Voilà, Frédéric Legarce, le maire du Palais à Belle-Île-en-Mer, joint pour Europe 1 par Mathieu Bock.
Les sports du foot, du hand et du volley ce soir.
En Ligue 1, le 2e Marseille reçoit le 3e Rennes à partir de 20h45. En volley, rendez-vous capital pour les Bleus qui jouent à partir de 20h10 pour leur qualification au JO de Tokyo face à l'Allemagne. Tandis que les handballeurs démarrent dans quelques secondes leur premier match du championnat d'Europe face au Portugal. On suivra ça à 19h avec Christophe Lamarre.
Et puis, vous savez combien on aime la musique sur Europe 1. Vous avez aimé cette semaine David Bowie, c'était avant-hier. Vous avez aimé Oasis hier. Et bien ce soir, c'est une femme qui est à l'honneur, la délicieuse chanteuse Alicia Keys.
Dont le nouveau single sort aujourd'hui. Derrière l'écriture, un certain Ed Sheeran. Ça fait 4 ans que ses fans attendaient ça. Un peu moins soul, retour à ses premières amours, le R&B. So I sing a song for the hustlers, trading at the bus stop. Single mothers, waiting on a jet to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line. Alicia Keys, son nouveau single qui est sorti aujourd'hui et qui s'appelle Underdog.
Merci beaucoup Isabelle Millet pour cette belle progression musicale cette semaine avec vous quasiment. Merci, à tout à l'heure. Anissa, le temps de ce week-end qui commence avec un samedi gris.
Oui, effectivement, le ciel est chargé demain avec beaucoup de nuages, mais le temps reste sec. Pas de pluie demain sur toute la France. Alors on commence par le sud, des Pyrénées jusqu'au Languedoc, le long de la Méditerranée, en Corse et sur les Alpes. Et bien là, après la dissipation des brouillards dans les terres, le ciel reste dégagé et la journée s'annonce très ensoleillée demain dans le sud. En Bretagne et en Normandie, les nuages arrivent dans l'après-midi avec du vent de sud-sud-ouest aussi sur les côtes qui souffle jusqu'à 60 km/h. Partout ailleurs, en région parisienne, dans le centre Val-de-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, sur le Nivernais et le Val-de-Saône, l'Alsace, la Gironde, beaucoup de brumes et de brouillards et de nuages bas le matin. Le temps sera beaucoup plus lumineux dans l'après-midi. Les températures, moins 3 à Manosque, 1 degré à Limoges demain matin, 4 pour Paris. Dans l'après-midi, nous aurons 5 à 16 degrés de Langres à Bastia. 10 pour la capitale, 12 à Quimper. Un mot pour dimanche. Allez, dimanche, on aura quelques gouttes à l'ouest, mais dans l'ensemble, c'est une journée bien ensoleillée.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec dans un instant votre invitée Nathalie Lévy.
Et oui, les syndicats, les partenaires sociaux, les partenaires évidemment qui se sont succédés à Matignon toute cette journée autour du Premier ministre Édouard Philippe qui va prendre la parole désormais. Laurent Berger à sa sortie en fin d'après-midi a évoqué lui une volonté d'ouverture du Premier ministre. Qu'en pense Force Ouvrière qui était reçue plus tôt dans la matinée? Le patron de ce syndicat, Yves Verrier, mon invité dans un instant.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, aujourd'hui se tenait donc cette conférence de financement du système des retraites. Tous les syndicats ont été reçus par le Premier ministre. Parmi eux, le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier, qui est votre invité ce soir.
Bonsoir Yves Verrier.
Bonsoir.
Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. Vous étiez ce matin à Matignon, autour d'Edouard Philippe, avec Édouard Philippe et Gérald Darmanin. Et puis se sont succédés les partenaires sociaux jusqu'à Laurent Berger, il y a à peu près une heure et demie de cela, qui en est ressorti plutôt avec le sourire timide, mais le sourire quand même, en saluant la volonté d'ouverture du Premier ministre qui va s'exprimer dans les toutes prochaines minutes. Vous l'avez senti aussi, vous, cette volonté d'ouverture?
Moi, j'ai compris que le Premier ministre veut absolument qu'il y ait une solution en matière d'équilibre budgétaire. Mmh. Moi, je lui ai dit très clairement, la difficulté, c'est qu'on est en train de mettre sous le boisseau le dialogue social, la négociation collective. En clair, on va peut-être avoir une annonce aujourd'hui de temporisation ou de suspension sur l'âge pivot,
disons les choses.
En attente que les partenaires sociaux, comme il le dit, le suggère, se mettent d'accord sur une solution alternative. Avec à la clé, on a eu un document qui nous dit que l'âge pivot conduirait à une économie sensible de l'ordre de 12 milliards. En 2027.
Donc, si... C'était pile au moment, d'ailleurs, où les partenaires sociaux continuaient à défiler aux côtés d'Edouard Philippe.
Voilà.
Une sorte de provocation, c'est comme ça que vous l'avez pris?
Non, mais voilà, ça nous donne la mesure des 12 milliards à réaliser d'économie. D'accord? Moi, j'ai le sentiment qu'on est en train de nous refaire le mauvais film, le mauvais scénario de l'assurance chômage. On vous demande de vous mettre d'accord à l'assurance chômage sur 3 milliards d'économies. Mmh. Si vous n'y arrivez pas, ce qui... évidemment, a été le cas, puisqu'on nous demandait de faire des économies sur les droits des demandeurs d'emploi, eh bien, c'est l'État qui, in fine, a décidé.
Sauf que, Yves Verrier, après 37 jours de mobilisation, 37 jours de grève, est-ce qu'il n'est pas temps, effectivement, de se mettre quand même d'accord? De se mettre quand même d'accord sur au moins le retrait de l'âge pivot et continuer à discuter après, parce que de toute façon, c'est ce qui va se passer. On sait que, de toute façon, le 24 janvier, Conseil des ministres, le texte sera sur la table. Il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre.
Ah, il y a toujours une marge de manœuvre, vous savez, le Conseil des ministres, on est encore en démocratie parlementaire, il y a un Parlement derrière, donc si véritablement on arrive au Conseil des ministres avec un projet de loi, eh bien, avec ou sans âge pivot, moi je le redis, le problème du régime unique par points, c'est que vous avez la possibilité pour l'État demain d'agir sur les leviers qui feront que c'est une forme d'âge pivot permanent. Chaque année, on nous imposera...
Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Je ne comprends pas, Yves Verry. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Parce que si la CFDT et l'UNSA, parce qu'on a vu aussi le sourire de Laurent Escure ce matin, qui parlent tous les deux de volonté d'ouverture, qui disent qu'Edouard Philippe sera rapide. D'ailleurs, Edouard Philippe là, nous livre là, dans quelques secondes, ce qu'il en sera. Qu'il est même prêt, Laurent Berger, à avancer son calendrier sur ce financement qu'il propose. Si tout semble converger, qu'est-ce que vous allez faire, vous, à Force Ouvrière ?
Moi, je vais demander un peu de cohérence à tout cela. Je vais commencer par demander à ce que les acteurs qui se sont mis d'accord en 2015 au sein de la GIRC-ARRCO pour signer un âge pivot dans les retraites complémentaires avec un malus, eh bien, dénoncent immédiatement en parallèle leur accord au sein de la GIRC-ARRCO. Nous, nous ne l'avions pas signé.
D'accord.
Et nous avons quitté la présidence de la GIRC-ARRCO parce que nous refusions de présider à la mise en œuvre d'un système de retraite complémentaire qui introduisait justement une sanction pour ceux qui auraient liquidé leur retraite alors qu'ils en ont l'âge
ça
requis,
dire...
le droit requis. Donc exactement l'âge pivot que aujourd'hui les mêmes acteurs nous disent, certains en tout cas du côté syndical, nous disent vouloir ne pas figurer
oui,
dans le projet de loi du gouvernement. Alors
ça veut dire
cohérent.
Quand même, quand je vous entends, et on écoute également Édouard Philippe qui dit qu'il fera des propositions précises demain par écrit, donc on n'en saura pas plus de toute évidence ce soir sur retrait ou non de l'âge pivot, comme demandé depuis le départ par Laurent Berger pour la CFDT ou encore Laurent Escure pour l'UNSA, cette fameuse ligne rouge, il ne le dit pas encore là. Ce soir, ce sera demain. Ce sera demain par écrit des propositions précises. Bon, si tout converge dans ce sens-là, et si j'entends bien ce que vous nous dites aussi ce soir, c'est quand même que vous êtes dans une position où là, on pourrait se dire que vous appelez quand même à reprendre le travail, à revenir, alors avec vos propositions, mais à revenir à des discussions qui permettent à au moins aux franciliens d'être débloqués.
Je suis en désaccord avec le projet de régime unique par points pour une raison simple, c'est que demain, nous aurons ce mauvais film chaque année ou tous les 5 ans au moment de la discussion sur la règle d'or. On nous dira réaliser tant d'économies.
D'accord, Yves, mais vous dites quoi alors? Vous dites il faut le retrait du projet purement et simplement, là encore ce soir.
Je pense effectivement que ce projet est une très mauvaise idée. C'est la pire des idées de ce quinquennat. Il faut le mettre de côté. Il faut revenir. On peut discuter effectivement sur les questions d'équilibre. On peut négocier sur l'emploi des seniors.
Et c'est ce qui va se passer.
On peut travailler sur l'amélioration.
Ce qui va se passer, n'est-ce pas, Yves?
Mais ça peut se faire dans le cadre du régime actuel. On n'a pas besoin, ça ne justifie nullement.
Mais vous savez bien que
de supprimer l'existant qui garantit une retraite à tout un chacun, fondée sur les meilleures périodes de la vie active, pour aller vers une retraite où il sera plus difficile
d'acquérir ses points. Mais Yves Verrier, vous savez bien que si aujourd'hui la CFDT et l'UNSA top, comme on dit, avec Édouard Philippe, et il l'a dit Édouard Philippe il y a quelques secondes, cette journée d'échange a donné lieu à des discussions très franches, constructives et utiles. Donc apparemment, on parle d'une même voix, que ce soit du côté de Matignon et du côté de la CFDT et de l'UNSA. Ça veut dire que vous allez vous retrouver isolé à dire on veut le retrait pur et simple.
Je vous fais remarquer quand même que depuis le début sur ce dossier-là, ni la CFDT ni l'UNSA n'ont contesté le projet du gouvernement et ne se sont mobilisés. Aujourd'hui, on parle du retrait de l'âge pivot, c'est parce qu'il y a des centaines de milliers de salariés qui se mobilisent depuis le 5 décembre et ça n'a pas été à l'appel de ceux qui nous demandent la retraite de l'âge pivot aujourd'hui.
Oui, mais moins quand même, Yves Verrier, vous le savez bien, 37 jours de grève, quatrième mobilisation hier interprofessionnelle, mais en deçà des dates du 17, en deçà des dates du 5 décembre. Comment vous allez continuer le combat si vous êtes seul?
Mais vous pensez un seul instant qu'aujourd'hui, on parlerait de retirer l'âge pivot qui était dans le projet du haut-commissaire dès le mois de juillet s'il n'y avait pas eu l'appel à la grève le 5 décembre? Jusqu'au 5 décembre, rien n'avait bougé. Souvenez-vous-en, nous avions dit exactement ce qui ne posait problème. Et on a relancé, le gouvernement a relancé une concertation au mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Rien n'a bougé, il a fallu qu'on appelle à la grève pour qu'on commence à bouger, à reculer l'âge de la génération auquel le projet sera mis en œuvre.
Donc vous dites que vous êtes déterminé ce soir, Yves Verrier, que vous êtes déterminé. Et donc ça veut dire quoi concrètement? Ça va se traduire comment? Vous allez vers quoi? Vers d'autres appels à se mobiliser la semaine prochaine? Vers quoi? Qu'est-ce que vous voulez concrètement?
La mobilisation est maintenue. Nous avons lancé un appel avec l'intersyndicale qui représente bien plus que les deux syndicats favorables au régime unique par points. Et je peux vous dire encore une fois que nous sommes déterminés parce que nous sommes convaincus que ce projet est dangereux pour les retraites à l'avenir,
donc
pour nos enfants, nos petits-enfants.
Vous ne voyez pas de sortie de crise
Encore une fois, chaque fois que nous faisons reculer le gouvernement. S'il n'y a plus d'âge pivot, ce sera moins violent immédiatement. Eh bien, ce sera toujours ça de éviter. Mais pour autant, le projet de régime unique par points ne nous convient pas pour les raisons que nous avons expliquées dans les détails. Nous en avons débattu avec des représentants du gouvernement, des ministres, des élus de la majorité. Et à chaque fois que nous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous n'étions pas d'accord, nous n'avons pas été démentis.
On vous entend. Votre détermination est intacte ce soir.
Absolument.
Hiver, secrétaire général de Force ouvrière. Merci beaucoup.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec la suite du programme, Nathalie Lévy.
On a bien avancé, mais on n'en saura pas plus hein, ce soir dans les faits. Il faut attendre demain pour avoir les précisions exactes d'Edouard Philippe par écrit. C'est à ce moment-là qu'on saura si l'âge pivot est véritablement retiré de cette réforme des retraites. On en parle avec les grandes voix dans ce studio dans une seconde.
Et vous pouvez interroger les grandes voix, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h. Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et vos titres, Isabelle Millet, ce soir.
Oui, avec la prise de parole d'Edouard Philippe, il y a quelques instants, à l'issue de ses consultations avec les organisations syndicales et patronales, le Premier ministre parle de discussions franches, constructives et utiles. Nous avons bien avancé dans la recherche du compromis, mais il nous reste du travail. Le Premier ministre, qui demain, par écrit, adressera aux syndicats des propositions concrètes qui pourraient, dit-il, être la base d'un compromis, propositions qui porteront sur les objectifs et les modalités de la conférence sur le financement. Le chef du gouvernement réaffirme la détermination de bâtir le système universel de retraite plus juste et plus solide et de présenter ce projet le 24 janvier en Conseil des ministres en vue d'une adoption avant l'été. Il redit l'importance du dialogue social. Un peu plus tôt, Laurent Berger de la CFDT disait avoir senti une volonté d'ouverture dans la parole du Premier ministre sur l'âge pivot. L'Iran nie catégoriquement la thèse selon laquelle le Boeing 737 qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran aurait été touché par un missile, alors que cette piste est privilégiée par plusieurs pays, notamment les États-Unis, les Pays-Bas et le Canada, dont nombre de citoyens ont péri dans ce crash. En Australie, comme attendu, le mercure dépasse aujourd'hui les 40 degrés dans les états de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud, augmentant bien sûr encore l'inquiétude alors qu'un nouvel incendie qualifié de méga-feu s'est déclenché cet après-midi à la jonction de deux autres incendies, laissant craindre le pire. Et puis le sport, ça se passe en ce moment, le handball, premier match du tour préliminaire de l'Euro. La France qui affronte le Portugal et pour l'instant, elle mène 6 à 3. Anissa, 6 à 4.
Le voilà, Portugal vient de marquer.
C'est en direct sur Europe 1.
Voilà, quelle équipe. Merci.
Ah, on suit. Hein.
Merci Isabelle Millet. Merci Anissa, avec des brouillards demain.
Oui, effectivement, soyez prudents. Des Ardennes au Pays Basque, dans l'est de la France, sur la vallée du Rhône, la journée débute avec beaucoup de nuages bas, hein, comme depuis quelques jours maintenant, des brumes et des brouillards. Alors au fil des heures, cette grisaille, elle va se dissiper. Elle reste tenace à l'est. Hein. Soyez prudents en Bourgogne-Franche-Comté. Au nord-ouest demain, en Normandie et en Bretagne, après une matinée lumineuse, là, le ciel se couvre dans l'après-midi. En fait, c'est au sud des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur, tout le long de la Méditerranée, en passant par l'Occitanie, le Massif central, la vallée du Rhône, les Alpes et la Corse. C'est là que la journée sera la plus belle, avec du grand beau soleil. Les températures, 0 à moins 2 degrés sur le centre-est demain matin, 6 à 9 le long du golfe du Morbihan et de la Méditerranée. Demain après-midi, nous aurons 5 à 16 degrés.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir est jusqu'à 19h, comme chaque jour, Nathalie Lévy. C'est le débat des grandes voix avec autour de vous ce soir Marie-Ève Malouine, Philippe Gouliot et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce studio. Bonsoir. Merci d'être là. On va écouter Edouard Philippe parce qu'il a été suffisamment bref ce soir à l'issue hein, de ses entretiens avec les partenaires sociaux. On va l'écouter. Est-ce qu'on se disait ce soir qu'on pourrait être plus avancé? Évidemment, il y a des sourires. On ne va pas se cacher, il n'y a pas encore de concret, mais on sent qu'il y a peut-être une sortie de tunnel, on l'écoute.
Demain, par écrit, j'adresserai aux organisations syndicales et patronales des propositions concrètes qui pourraient être la base de ce compromis.
Voilà, il a été à peine plus long hein, dans la réalité. Edouard Philippe entouré de nouveau monsieur retraite Pietraszewski et puis Agnès Buzyn qui était à ses côtés au pied de Matignon. Frédéric Dabi, on a entendu Laurent Berger, pas très prolixe non plus à la sortie, mais quand même un peu plus souriant qu'à l'habitude et puis surtout en parlant d'ouverture. Les propositions concrètes et écrites demain d'Edouard Philippe qui parle aussi d'une journée constructive. A priori, ça veut dire quoi? Que l'âge pivot est retiré?
Personne ne peut le dire aujourd'hui. On a une situation extrêmement bloquée.
Vous dites toujours bloqué
toujours
ou vous
bloqué,
sentez une détente
qui
quand
reste
même.
Bloqué, même si le
on
Premier ministre
se donne,
réaffirme un en fait, calendrier, remet en perspective. Il a fait des références, on en parlait tout à l'heure avec Marie-Ève, à ses déclarations du 11 décembre. Mais clairement, du point de vue de l'opinion publique que l'IFOP sonde, il n'y a pas le moindre sentiment d'une, d'une ouverture avec, si je puis dire, deux trains qui foncent l'un vers l'autre en pleine vitesse, pour reprendre une image historique. Un soutien des Français au mouvement qui reste relativement mitigé, voire à l'arrêt. Des Français qui ont compris que le gouvernement ne lâcherait pas, mais une défiance majoritaire. Hein, c'était 63% dans une enquête de l'IFOP pour la Marseillaise, qui ne font pas confiance au gouvernement pour réformer, avec cette polarisation, vous en parliez, sur l'âge pivot, qui est un vrai point de crispation pour beaucoup de Français.
Mais quand même, Marie-Ève Malouine, quand on entend cette journée d'échange a donné lieu à des discussions très franches, constructives et utiles, on n'avait pas entendu ça depuis un mois quasiment. Quand on entend Laurent Berger aussi dire, parler d'ouverture et saluer d'ailleurs cette ouverture, on se dit que, ok, aucun des deux ne doit perdre la face, on le sait, que ce soit Laurent Berger ou Édouard Philippe. Mais on peut imaginer quand même que là, on a peut-être trouvé un point d'accroche.
Incontestablement, il s'est passé quelque chose, puisqu'on les voit tous les deux sortir souriants en disant que ça va bouger. Visiblement, Laurent Berger a eu des assurances, mais il attend les actes.
Bien sûr.
Et le Premier ministre dit qu'il va consulter le président de la République. Et de fait, il a quand même accepté et acté le principe d'une conférence sur le financement de cette réforme, puisqu'il va définir les objectifs et le calendrier. Et c'est ça qui fera l'objet de ses propositions. Donc, ça a bougé. Est-ce que, reste à savoir si, avec l'organisation de cette conférence, elle permet d'enlever l'âge pivot du texte de loi sur la réforme des retraites. Ça, il va falloir qu'il le dise, puisque Laurent Berger dit « sans ça, on ne va pas à la conférence ». Si l'âge pivot reste dans le texte, il ne faut pas compter sur nous pour aller à la conférence. Et puis, deuxième étape pour Laurent Berger aussi, c'est que cette conférence, il ne faut pas qu'elle dise « discuter », et puis si vous ne mettez pas d'accord, on remet l'âge pivot.
Ouais. Donc, d'ailleurs, Laurent Berger, il dit aussi, sur la conférence, il est prêt à avancer le calendrier. Donc, quand même, Philippe Gouillot, on se dit, quand d'ailleurs Édouard Philippe dit ce soir, je dois avoir le président de la République et les responsables du parti pour en discuter. Bon, on se dit qu'il nous l'a fait un peu à l'envers quand même. Tout ça, c'est largement discuté depuis un moment quand même. On n'est pas loin. On est
Moi,
pas
j'ai
loin.
L'impression qu'on n'est pas loin. Et d'ailleurs, j'ai noté tout à l'heure que Philippe Martinez, le patron de la CGT, a dit « mais au fond, l'âge pivot, il existe déjà ». Et j'avais l'impression, en l'entendant dire ça, qu'il voulait priver la CFDT d'une éventuelle victoire si, comme moi je le pense, l'âge pivot va être enlevé ou rebaptisé, transformé
en âge d'équilibre.
Et, et puis d'une façon un peu probablement plus ouverte vis-à-vis des syndicats réformistes que sont la CFDT et l'UNSA. Mmh. Donc moi j'ai l'impression quand même qu'on avance. Bon. Alors après, le diable est dans les détails.
Et oui, c'est ça. Tout ça reste à confirmer demain, par écrit, par Édouard Philippe. En attendant, il est déjà 39 fois l'âge pivot dans le texte qui doit être présenté en Conseil des ministres le 24 janvier prochain. On s'en parle dans un instant.
La suite de votre grand journal du soir, c'est dans un instant sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Jusqu'à 19h sur Europe 1, c'est le débat des grandes voix dans votre grand journal du soir, avec autour de vous Nathalie Lévy, Marie-Ève Malouine, éditorialiste politique, Philippe Gouliot, ancien correspondant à l'Élysée pour l'AFP et le Figaro, et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Nous avons bien avancé, a dit Édouard Philippe, ce soir, sur le perron de Matignon, après avoir reçu les partenaires sociaux. Il a pas été tellement plus prolixe. Il faudra attendre encore demain pour avoir des propositions concrètes. D'ici là, il doit rencontrer encore Emmanuel Macron et les responsables du parti La République En Marche pour en discuter. On se disait avec vous, les grandes voix, il y a quelques instants, il va y avoir la formule, l'âge pivot peut-être retiré au profit de l'âge d'équilibre, on verra. Mais il y a aussi effectivement pour Édouard Philippe de protéger, de sauver sa monture, Marie-Ève Malouine, parce qu'effectivement, Édouard Philippe, au même titre que Gérald Darmanin, pour s'adresser au centre-droit depuis un mois particulièrement, ils ont été en tête de gondole, si j'ose dire.
Oui, parce que clairement, l'électorat de droite est favorable, en tout cas pense qu'il est inéluctable, indispensable, de prolonger la durée de l'âge légal. Donc Édouard Philippe ne veut pas être celui qui cède tout seul. Donc là, il veut simplement impliquer le président de la République pour dire en gros s'il a cédé, finalement, c'est aussi sous la pression du président de la République, d'où l'annonce de dire ils veulent en reparler avec lui, alors qu'ils savent très bien sur quoi ils peuvent céder, ils en ont déjà parlé.
C'est aussi peut-être pour ça qu'on avait, pendant qu'il recevait les partenaires sociaux, l'information selon laquelle cet âge pivot à 64 ans, il rapportait 12 milliards d'euros en 2027, 2022, 3 milliards d'euros d'économie.
Oui.
C'est aussi une manière de dire, ben voilà, cet âge pivot, il fait sens.
Oui, il fait sens. Il fait sens aussi, comme le disait Marie Malouine, pour l'électorat à droite qui soutient fortement Édouard Philippe. Dans le dernier baromètre IFOP fiducial pour Paris Match, on voit qu'il est majoritaire dans l'électorat de droite, dans l'électorat Fillon. C'est l'atout droite pour Emmanuel Macron. Et pour cet électorat de droite, quand on les interroge sur l'âge pivot dans les enquêtes qualitatives, il voit comme une sorte de continuation avec la réforme. Sarkozy, Fillon-Woerth ont été passés, ce n'était pas un âge pivot, c'était un âge de durée de cotisation de 60 à 62 ans. Une partie de l'opinion, notamment la gauche, est vent debout parce qu'il y a cette logique de der-der-der. On nous a dit en 2010, c'était le dernier effort de passer de 60 ans à 62 ans. On remet la chose sur le tapis. Mais, pour l'électorat de droite, attaché au déficit, très souvent plus âgé que la moyenne et qui ne sera pas concerné par la réforme, c'est un totem très important, d'où la nécessité pour la Macronie de sauver le soldat Philippe.
Exactement. Sauver le soldat Philippe, Philippe Gouillot, absolument. Gérald Darmanin, aussi ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui parlait aussi hier au Figaro. On sentait comme ça cette urgence de part et d'autre. Effectivement, il faut donner des gages jusqu'au dernier moment.
Oui, bien sûr. Je trouve quand même que là, on est dans un partage des rôles assez classique dans la Ve République, entre un Premier ministre qui est à la manœuvre, aux manettes en permanence, qu'on voit beaucoup, qui parle beaucoup, qui a les contacts avec les syndicats et le patronat, et un Président de la République qui prend de la hauteur. C'est vrai que le Premier ministre apparaît comme un fusil, mais c'est une répartition des tâches assez classique.
Assez classique.
Et je trouve que dans ce rôle-là, Édouard Philippe a plutôt marqué beaucoup de points.
Exactement. On a Antoine qui nous appelle depuis Toulon dans le Var. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue
bonsoir
à vous.
Bonsoir.
Bon. On n'est peut-être pas loin d'un accord, hein, vous l'avez compris. Peut-être, hein, restons prudents.
Voilà, tout à fait. Voilà, j'ai entendu donc le Premier ministre. Et effectivement, j'ai un côté optimiste. Donc, je pense qu'on est très, très proche d'un compromis. Mais j'ai aussi un côté réaliste.
C'est-à-dire ?
Où je pense que ce qui risque de se passer, c'est que, comme dans toute négociation, c'est je fais un pas vers toi, si toi, tu fais un pas vers moi. Donc, je pense que le souci du financement du Premier ministre avec le souci des syndicats de ne pas prolonger le départ à la retraite, je pense qu'ils vous ont fait chacun un pas vers l'autre et que quelque part, je pense que cette histoire d'âge pivot ou d'âge d'équilibre, ou appelez comme vous voulez, je vais rentrer dans une période de discussion, de négociation, histoire de dire qu'on ne le recule pas et qu'on ne le refuse pas. D'un autre côté, pour faire simple et concrètement, moi ce que je crois, c'est qu'on va arriver à une hausse des cotisations pour rééquilibrage des finances et aussi à travailler plus longtemps parce que c'est logique.
Alors, voilà. Merci Antoine. Ouais. Merci beaucoup Antoine. On va tenter évidemment de refaire un petit tour de table rapide. Ça, c'est vraiment ce que le gouvernement ne veut pas. La hausse des cotisations, c'est d'ailleurs une proposition d'Yverien qui était dans ce studio il y a quelques instants.
De la CGT. Puisqu'on dit augmenter les salaires, c'est augmenter les cotisations.
Et ils ont dit non catégoriquement dès le départ.
En tout cas, quand on interroge les Français sur les pistes, il n'y en a pas énormément.
C'est ça.
Ils sont contre la baisse des pensions, c'est une ligne rouge, et ils sont contre également la hausse des cotisations. Reste le levier qui a été utilisé en 2010 de l'augmentation, de l'allongement de la durée de cotisation. Le panachage pourrait peut-être passer s'il est perçu comme absolument indolore, mais quid des réactions du MEDEF et des dirigeants d'entreprise.
Ça, Marielle, c'est le fruit de la négociation. Ça s'était passé aussi comme ça pour l'Argirc Arco, pour le privé. Et finalement, le MEDEF avait accepté cet âge pivot qui durait pendant quelques années. Après, c'est aux partenaires sociaux de trouver éventuellement
encore
le bon panachage,
voilà.
En sachant qu'à la fin, le gouvernement dira, si vous ne vous mettez pas d'accord, nous, ce sera l'âge pivot, voire peut-être carrément un changement sur l'âge légal.
Philippe, très vite.
Oui, moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'effectivement, on sent monter, notamment en Île-de-France, une grande exaspération qui touche à la fois les syndicats et le gouvernement. Et si je peux juste rapidement poser une petite question à Frédéric Dabi, puisque nous
avons
la
réponse, ce sera juste après.
Oui.
C'est comme ça qu'on fait
d'accord.
Du teasing.
Je pose la question. C'est vrai qu'on parle beaucoup du soutien, qui est peut-être mitigé en ce moment, mais enfin qui a duré quand même, de l'opinion publique au mouvement de grève. Et j'aimerais savoir s'il existe des statistiques très précises sur ce qu'on pense à Paris et en Île-de-France par rapport à la France entière.
Vous avez raison, même si Paris n'est pas la France, mais c'est intéressant parce que ce sont les franciliens qui sont les plus impactés.
Bien entendu.
Alors la réponse de Frédéric Dabi dans un instant. On se retrouve les grandes voix.
Votre grand journal du soir avec les grandes voix, c'est bien sûr avec Nathalie Lévy tous les jours sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Ce soir, Marie-Ève Malouine, Philippe Gouliot et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Et Philippe Gouliot, vous avez posé une question à Frédéric Dabi hein, juste avant notre petite interruption pour se demander, évidemment, les Franciliens, on le sait, très impactés depuis le début de ce mouvement, 37 jours de grève. Et Frédéric Dabi, ben, vous avez pu jauger, sentir dans les sondages ce qu'il en est ?
Oui, juste avant Noël, on avait des Franciliens, c'est un Français sur 5, un Français sur 6, qui étaient nettement moins en soutien et en sympathie à l'égard du mouvement par rapport à la moyenne nationale, mais c'était que 4 à 5 points de différence.
De moins,
la dernière enquête IFOP fiduciale pour CNews, c'était quasiment égalité. Il faut avoir en tête une chose. Dans une enquête IFOP pour Le Figaro, on voit qu'un gros quart des Français se déclaraient gênés par la grève. Ça fait beaucoup en termes d'extrapolation, mais ça fait trois quarts des Français pas concernés. C'était monté à 44% pendant les fêtes de Noël, et comme par hasard, on fait une enquête à la rentrée la semaine dernière pour le JDD, on voit le soutien et la sympathie baisser fortement. L'Île-de-France, il y a la gêne, mais tout le monde n'est pas gêné, et il y a aussi une posture citoyenne, une politisation plus forte qui fait qu'on va être, peut-être, on va réagir en citoyen gêné par la grève, mais parfois aussi en citoyen opposé à la réforme des retraites.
Et donc, vous nous dites, c'était quand même pas le grand écart.
Non,
c'était
absolument
quand même pas le grand écart. Voilà,
merci
noter.
Beaucoup de ces précisions voilà, utiles.
On n'interroge pas des personnes qui galèrent dans les bus, les RER, ou là, à mon avis,
qui sont obligés de se lever à 4h du matin pour en choper un.
C'est sûr, si on fait un sondage dans les bus.
Bien sûr. Alors, vous savez que depuis quelques minutes maintenant, depuis 18h30 précisément, ou quasiment, Emmanuel Macron est arrivé au Conseil économique, social et environnemental pour s'adresser à ses citoyens, 150 tirés au sort de cette convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron d'un côté, Édouard Philippe de l'autre, hein, chacun son dossier ce soir particulièrement. L'occasion d'un nouveau discours emballé sur le climat, comme il aime à le faire, le président de la République.
Oui, sans doute. En même temps, ce sont les participants à cette convention qui ont demandé à le voir. Ils ne veulent pas du tout que le président vienne leur faire un exposé. Ils veulent le questionner. Ils ne veulent pas qu'il sorte de ce rôle-là. Mais en même temps, c'est un enjeu important pour lui parce qu'on voit que depuis le début de ce quinquennat, il n'arrive pas à s'approprier la thématique sur la défense du climat puisqu'il y avait Nicolas Hulot qui portait ça de façon spectaculaire mais qui est parti de façon encore plus spectaculaire. Et depuis, il y a un problème d'incarnation dans ce gouvernement. Il n'y a pas le ministre qui est sur De Rugy, Elisabeth Borne,
Mathieu Orphelin aussi, hein, qui a quitté le gouvernement. Et on voit bien, parce que depuis le début, effectivement, il y a les discours d'Emmanuel Macron, y compris à l'étranger, qui sont toujours très marquants. Et puis, les petits pas sur le terrain, Frédéric Dabi.
C'est vrai que s'il y a une critique qui se concentre sur la critique d'inaction, qui n'est jamais associée à Emmanuel Macron. Au contraire, il agit, il réforme, il fait ce qu'il dit ce qu'il fait, sauf sur le terrain environnemental. Et Marie-Ève Malouine a raison de rappeler qu'il y a eu une vraie césure avant et après Nicolas Hulot, quand bien même le bilan de Nicolas Hulot était très très prévisible.
Il n'était pas totalement nul, le bilan de Nicolas Hulot.
Il n'était pas visible. Il n'était pas visible par les Français. Et c'est vrai que moi, en tant que praticien des études, j'applaudis dès demain ce recours aux conférences citoyennes, à la démocratie participative pour sortir, je dirais, des débats d'experts et faire rentrer les citoyens et leurs propositions dans la parole publique. Entre parenthèses, demain, avec l'IFOP et le ministère de l'Intérieur, on fait le même exercice sur les relations entre police et citoyens, un sujet extrêmement sensible.
Oui, on en a beaucoup parlé, notamment au moment du mouvement des milliers jaunes, et ça se poursuit avec les mouvements là, dans cette crise des retraites. Philippe Gouliot, il y a Emmanuel Macron, mais il y a Édouard Philippe qui n'est pas très mobilisé non plus sur l'écologie. D'ailleurs, non. Il s'en est jamais caché, il est même très éloigné, ce n'est pas du tout son sujet.
Ce n'était pas du tout son sujet, c'est absolument vrai. Cela dit, là on a aussi l'impression, précisément, j'en reviens à l'idée que j'ai exposée tout à l'heure, d'un partage des tâches finalement. Édouard Philippe s'adresse plutôt prioritairement à l'électorat de droite et Emmanuel Macron va essayer de récupérer cette frange de l'électorat écologiste ou de gauche qui avait voté pour lui en 2017. Mais ce soir, au Conseil économique, social et environnemental, je lui conseillerais plutôt de ne pas faire de grands discours parce que ça serait le meilleur moyen de fâcher les 150 membres de cette convention citoyenne sur le climat. Et au contraire, il faudrait qu'il montre qu'il est à l'écoute, qu'il est prêt à se convertir d'une certaine manière et à faire des gestes concrets.
Bah oui, parce que le bilan environnemental à mi-mandat de ce quinquennat, il n'y a vraiment pas de quoi s'en vanter. Effectivement, il faut savoir que donc, cette expérience, elle est lancée depuis octobre. C'est véritablement inédit. Ils ont, ces citoyens, pour mission aussi de proposer des solutions pour baisser de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. C'est un peu utopiste.
C'est depuis 1990. Donc il y a quand même une petite marge de progression. ils ont une mission et surtout il y a une démarche, ce qui est de dire que les propositions qu'ils vont faire, le gouvernement, Emmanuel Macron, s'est engagé à les reprendre, que ce soit par référendum, projet de loi ou par décret directement. Donc je pense que là, ils vont lui poser des questions pour vraiment qu'il maintienne cet engagement. Mais on voit bien que même dans la majorité, ce n'est pas si simple. Quand il y a eu simplement les consignes des bouteilles plastiques, oui. On a vu ce que ça a donné. La majorité s'est divisée de façon en plus pas sur le devant de la scène,
et
mais un peu
en
coulisses. Les maires n'étaient pas contents. Donc c'est pas... Et puis la taxe gazole, c'était a priori pour l'environnement et ça a été plutôt mal perçu. Donc c'est quand même un enjeu qui est de plus en plus partagé par les citoyens, mais pour lequel les mesures concrètes sont très difficiles à prendre sans braquer une partie de la population.
C'est un bel exercice.
C'est un bel exercice, mais il faut que ça dépasse le stade de l'exercice en une seconde. Frédéric Dabi, en une seconde.
Dans le passé, il y a eu des conférences citoyennes au moment des états généraux de bioéthique. On en a fait à l'IFOP en 2009 et on avait vu que les gouvernements d'époque avaient eu beaucoup de mal à prendre en compte et appliquer les décisions des citoyennes. Attention au risque de tromperie, mais là, c'est tellement visible et tellement sur la durée que le gouvernement... Il y aura peu de choix de ne pas appliquer, de ne pas prendre en compte partiellement ou totalement les différentes recommandations du Palais citoyen.
En tout cas, les conclusions de cette convention citoyenne, elles sont attendues courant avril. On verra dans la foulée. Merci beaucoup, les grandes voix.
Merci. Merci à vous.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
L'information avec Isabelle Millet dans un instant et la prise de parole d'Edouard Philippe, brève, mais qui dit quand même qu'on est peut-être proche d'un accord. En tout cas, des propositions concrètes demain samedi.
2 heures d'infos tous les jours sur Europe 1. C'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. Jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir. La suite du programme jusqu'à 20h, Nathalie.
La politique avec Benjamin Griveaux, invité d'Aurélie Herbemont à 19h10. Le candidat à la République En Marche, challenger d'Anne Hidalgo, qui doit annoncer ce week-end sa candidature. Demain en France, demain dans le monde, vous connaissez ce rendez-vous que vous appréciez à 19h20 et puis 19h30. Éric Orsenna sera à mes côtés, l'écrivain et membre de l'Académie française qui sort son dernier ouvrage, Briser entre nous, la mer gelée. C'est un roman d'amour, on adore ça, publié chez Gallimard. Entretien à ne pas manquer. Météo des neiges par Anissa, c'est avec vous, c'est tout de suite.
Eh bien aujourd'hui, il a neigé sur quasiment tous les sommets, Nathalie. Alors on va faire le point pour demain. Alors dans les Pyrénées, aux Angles, demain c'est une belle journée qui s'annonce avec 3 degrés demain après-midi. Pas de chute de neige de prévu pour demain. Dans les Vosges, au Ballon d'Alsace, pas de neige non plus. Alors il n'y a même pas de neige en bas des pistes au Ballon des Vosges. C'est vraiment très très faible en enneigement. Demain, le ciel se dégage dans l'après-midi avec de belles éclaircies. 3 degrés, là aussi il fait très doux. Dans le massif central, au Lioran, on a seulement 10 cm en bas des pistes. Après les averses de neige et de pluie mêlée de cet après-midi, eh bien demain, il va faire très beau au Lioran. Peu de neige aussi et 4 degrés demain après-midi. Là où il y a le plus de neige, finalement, c'est dans les Alpes. Dans les Alpes du Nord, à Megève, demain, il va faire beau. Une belle journée pour skier, du grand beau soleil avec 2 degrés. Et dans les Alpes du Sud, à Orcières-Merlette, là aussi, il a neigé un petit peu. Et demain sera une très belle journée sous le soleil avec 5 degrés demain après-midi. Votre grand journal du soir, Isabelle Millet, Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Demain, par écrit, j'adresserai aux organisations syndicales et patronales des propositions concrètes qui pourraient être la base de ce compromis.
Un début d'ouverture ce soir. Le Premier ministre a reçu les syndicats à Matignon toute la journée. On a bien avancé, dit-il. Il parle de discussions très franches, constructives et utiles.
On écoutera Edouard Philippe, bien sûr. Adrien Becht nous dira si un cap vient d'être franchi.
Dans l'actualité également, quand des salariés de Boeing critiquent les bouffons, je cite, qui ont construit le 737 Max et affirment que jamais ils ne permettraient à leur famille de monter à bord. Le rapport interne qui enfonce encore un peu plus le clou. Et puis les experts face au Portugal. Premier match des Bleus en championnat d'Europe. Ça se passe en ce moment et les Français sont menés pour l'instant 12 à 11 à la pause.
Et la tendance météo, Anissa.
Alors demain, c'est du soleil pour la moitié sud. Un peu plus nuageux sur le reste du pays. Pas de pluie, le temps reste sec. Je vous donne tous les détails à la fin du journal. Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Les syndicats se sont donc succédés dans son bureau à Matignon. Édouard Philippe les a reçus un par un. On sentait qu'il y avait comme un vent d'ouverture, même si rien n'était acté. Vent d'ouverture confirmé tout à l'heure par le Premier ministre.
Je dirais que ce soir, nous avons bien avancé dans la recherche du compromis que nous souhaitons obtenir. C'est donc une journée utile, mais il nous reste du travail. Dès ce soir, je vais rencontrer le président de la République et prendre contact avec un certain nombre de responsables de la majorité pour évoquer les avancées possibles. Et demain, par écrit, j'adresserai aux organisations syndicales et patronales des propositions concrètes qui pourraient être la base de ce compromis.
Bonsoir Adrien Beck.
Bonsoir.
Du service politique d'Europe 1. Alors que faut-il retenir, Adrien, de ce qu'a dit Édouard Philippe ? Est-ce qu'on tient le début des prémices d'une sortie de crise ?
Eh bien alors, avec les syndicats réformistes CFDT-UNSA, peut-être on sent que la pression redescend d'un cran. Ce soir, Édouard Philippe, plutôt souriant d'ailleurs, laisse clairement entendre qu'un compromis rapide est possible autour de cette conférence de financement du système de retraite. C'était une proposition de Laurent Berger pour maintenir l'équilibre financier du régime sans passer par le fameux âge pivot. Demain, le Premier ministre va donc faire, on vient de l'entendre, des propositions aux syndicats sur les objectifs et les modalités de cette conférence. On notera toutefois qu'Édouard Philippe n'a pas évoqué le sujet, le totem de l'âge pivot, mais c'est pourtant bien là le cœur du sujet. Si cet âge pivot est sacrifié, par quoi le remplacer ? Ce sera sans doute l'un des enjeux de sa rencontre ce soir avec Emmanuel Macron. Le Premier ministre, et on l'a entendu aussi, s'entretiendra avec des responsables de la majorité, dont on sait que beaucoup sont pour un retrait de cette mesure.
Merci beaucoup pour ces précisions, Adrien Beck, du service politique d'Europe 1.
Et pendant ces discussions, eh bien, la mobilisation, elle continue, Isabelle.
Oui, avec des opérations coup de poing un peu partout en France aujourd'hui, comme à Marseille, par exemple, où les voies de la gare Saint-Charles ont été brièvement envahies avant un rassemblement devant le siège du MEDEF local. Demain, ce sera une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle avec de nouvelles perturbations dans les transports, même s'il y a du mieux pour demain à la RATP. Et c'est très rare pour un week-end. En général, c'est toujours là que c'est le plus perturbé. On ne vous le redit pas à chaque fois, mais toutes ces prévisions détaillées sont bien sûr sur notre site internet europe1.fr.
Amazon confirme son implantation à Senlis dans l'Oise. Son nouveau centre débutera ses activités en mai.
Avec à la clé, et c'est important, la création de 500 emplois. L'Iran dément formellement que le Boeing 737 ukrainien qui s'est écrasé avant-hier près de Téhéran ait été touché par un missile iranien. C'est pourtant l'hypothèse retenue notamment par les premiers ministres canadiens et britanniques, mais aussi par les États-Unis et par les Pays-Bas, même si Justin Trudeau, le premier ministre canadien, veut croire que ce n'était peut-être pas intentionnel.
Les Américains qui découvrent avec effarement le rapport transmis donc aux parlementaires à propos du 737 MAX, cet avion cloué au sol après deux crashs.
Oui, des échanges entre employés de Boeing qui sont assez surréalistes. Bonsoir Xavier Yvon.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Xavier. Alors ces échanges, ils montrent que beaucoup en réalité savaient chez Boeing qu'il y avait des problèmes et ce dès la conception de l'appareil.
Exactement. Écoutez bien ce qu'écrivait un employé de Boeing à un de ses collègues avant la mise en service du 737 MAX. Cet avion a été conçu par des clowns qui sont à leur tour supervisés par des singes. Et ce n'est pas un cas isolé. Nombre d'emails et de SMS des employés de Boeing montrent qu'ils évoquaient entre eux les défauts de ce nouvel avion et aussi qu'ils se moquaient des agents de l'aviation civile censés contrôler leur travail. Est-ce que tu ferais monter ta famille à bord d'un MAX ? Moi, non, demande à un autre employé à un collègue qui répond non également. Pire, certains messages montrent que ces salariés de l'avionneur américain ont délibérément manipulé les inspecteurs de l'Agence fédérale de l'aviation. « Je n'ai pas encore été pardonné par Dieu pour ce que j'ai dissimulé l'an dernier », écrit encore l'un de ses employés. Le 737 MAX a pourtant été certifié, autorisé à voler, jusqu'aux deux crashs qui ont tué 346 personnes l'an dernier. Depuis, tous les appareils de ce type sont cloués au sol. C'est un rapport accablant, ont réagi furieux les élus chargés de l'enquête parlementaire sur le 737 MAX.
Merci beaucoup Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en direct de New York.
En Australie maintenant, alors qu'une nouvelle vague de chaleur touche le pays avec plus de 40 degrés, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre les réponses du gouvernement face à la crise climatique.
Beaucoup réclament le départ du Premier ministre qui est accusé d'avoir tardé à réagir face à la propagation des incendies. Et puis nouvelle source d'inquiétude, deux gigantesques feux ont sous l'effet des vents fusionnés aujourd'hui dans le sud-est du pays en un brasier qui a déjà détruit, écoutez bien, une superficie équivalent à 55 fois Paris.
Ce monstre, voilà les dégâts qu'il provoque. Isabelle, après l'annonce inattendue du prince Harry et de son épouse de se mettre en retrait de la famille royale britannique, Meghan Markle est retournée au Canada. Elle a rejoint, ça y est, son fils, son petit garçon, Archie.
Et oui, et puis c'est anecdotique, mais ça en dit long quand même sur l'état d'esprit des Britanniques. Le musée Madame Tussaud de Londres a retiré aujourd'hui les statues de cire de Meghan et de Harry. Et puis les sports. L'entrée en lice des Bleus dans le championnat d'Europe de handball en Norvège. Ça se passe en ce moment face au Portugal. Et vous suivez ça, bien sûr. Bonsoir Christophe Lamar.
Bonsoir.
Ça fait environ trois quarts d'heure que la rencontre a commencé. Ça se présente comment ?
Ça se présente pas très bien. Parce que les Bleus sont menés 12-11 à la mi-temps. Ils vont
revenir sur le terrain de l'Arena de Trondheim dans quelques minutes face au Portugal qui les avait déjà battus en qualification à ce même Euro au mois d'avril dernier de 6 buts. Et on a retrouvé une équipe de France un petit peu surprenante, c'est-à-dire qu'elle a attaqué ce match de la meilleure des manières. Elle a rapidement compté 2 buts d'avance. Et puis autour de la 15e minute, eh bien, son jeu s'est progressivement délité. En attaque, c'était très maladroit. Trop de ballons perdus, trop de tirs manqués, ce qui a permis aux Portugais de revenir dans un premier temps au score et puis de passer devant 10 minutes sans marquer en handball. C'est colossal, c'est exactement ce qui est arrivé à cette équipe de France qui peut malgré tout compter sur 2 joueurs qui permettent au bateau français d'éviter le naufrage, à savoir Dika Mem, l'arrière de Barcelone, et bien sûr Nicolas Karabatic ouais. qui a déjà inscrit 4 buts ce soir et qui est effectivement dans une forme olympique. Olympique, et bien évidemment, ils aimeraient aller aux Jeux de Tokyo, mais pour l'instant, on ne va pas dire que c'est mal parti parce que ce n'est que le premier match, mais il est d'importance, il faut absolument battre les Portugais parce que ce sera la Norvège dimanche et ce sera encore un cran au-dessus. Mais attention, c'est loin, loin d'être gagné pour cette équipe de France qui est donc menée de 1 but à la mi-temps.
C'est jouable encore.
Mais allez, bien sûr que c'est
merci
jouable.
Merci Christophe Lamarre. Et puis en volée, après leur incroyable victoire en demi-finale contre la Slovénie, les Bleus doivent désormais terrasser la Mannschaft ce soir pour obtenir leur qualification pour les JO 2020, coup d'envoi à 20h10. Et on gardera aussi sur Europe un œil sur le foot avec en Ligue 1 le 2e Marseille qui reçoit le 3e Rennes à partir de 20h45.
Et là, on est complet. Merci voilà. beaucoup Isabelle Millet. L'info revient à 19h30 avec vous. Anissa, c'est du gris et du jaune demain. C'est rare, tiens, ce ouais. cocktail-là.
Alors, effectivement, le jaune, c'est pour le sud hein, puisque demain, eh bien, c'est vraiment du Languedoc aux Pyrénées, le long de la Méditerranée encore. C'est sur les Alpes. C'est là que la journée sera la plus belle après la dissipation de quelques brouillards dans les terres. Là, le ciel se dégage vraiment très nettement dans l'après-midi. Partout ailleurs, le ciel est assez chargé. Demain, en Bretagne et en Normandie, les nuages arrivent dans l'après-midi avec du vent de sud-sud-ouest sur les côtes. Et puis partout ailleurs, en région parisienne, en centre-Val de Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Nivernais et le Val-de-Saône, la Gironde, là, ce sont des brumes et des brouillards bas le matin. Attention, attention si vous prenez la route, ça sera beaucoup plus lumineux dans l'après-midi. Assez chargé en nuages quand même. Les températures, moins 3 à Manosque, 4 pour Paris le matin. Dans l'après-midi, nous aurons 5 à 16 degrés, 6 pour Rodez, 8 à Clermont-Ferrand et Strasbourg, 10 à Paris.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et oui, les grèves, vous le savez, impactent beaucoup Paris. Les franciliens, on le disait tout à l'heure avec les grandes voix. Du coup, Benjamin Griveaux, l'invité d'Aurélie Herbemont, est un tout petit peu en retard, coincé dans les bouchons, mais il nous rejoint, candidat à La République En Marche, à la mairie de Paris. On se retrouve dans un instant pour regarder demain en France, demain dans le monde. On a un temps d'avance sur Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours, jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy. Et Europe 1, qui a toujours un temps d'avance, regarde tous les soirs vers demain.
Demain en France, on va démarrer comme cela avec un rendez-vous dans le nord de la France. Ce soir, des manifestations dans la commune de Nieppe, près d'Armentières précisément. Des habitants s'opposent à un projet d'extension d'un poulailler géant. C'est bien vrai. Bonsoir Lionel Gougelot.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors ces habitants, ils craignent quoi? Des nuisances, mais c'est aussi un modèle d'élevage intensif qu'ils contestent, hein, c'est ça?
Oui, en fait, vous savez ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est en fait l'illustration de ce qu'il faut bien appeler la défiance des citoyens consommateurs vis-à-vis de ces élevages intensifs. Alors d'abord, c'est vrai, le projet est important. On parle ici d'un élevage de 88 000 poulets enfermés dans de vastes hangars pour une production annuelle de 570 000 poulets. Imaginez un peu. Alors la première crainte des riverains, ce sont bien sûr les nuisances liées aux odeurs, à l'épandage des fientes, mais il y a aussi le sentiment donc que eh bien, ces élevages intensifs sont le reflet d'un mode de production qui ne correspond plus du tout aux attentes des consommateurs. Estelle Martel anime le collectif des riverains contre ce projet.
C'est vraiment une exploitation d'un autre temps, d'un autre monde. 21 poulets au mètre carré, c'est énorme. Est-ce que cette viande est bonne à manger? C'est un vrai questionnement. Donc il y a des questions de santé publique aussi. On ne peut pas comprendre. Dans le contexte actuel, avec tout ce qu'on entend, on dit stop. Non, c'est pas possible.
Et on dit tellement stop que l'association L214, qu'on connaît bien, s'est emparée du dossier logiquement.
Oui, pour dénoncer la maltraitance dont sont victimes, selon elle, les volailles dans ce type de poulailler industriel. Selon un sondage publié par l'association, 88% des Français seraient opposés à ce type d'élevage qui entasse les poulets les uns sur les autres et les envoie à l'abattoir alors qu'ils sont à peine adultes. Demain, l'association ira donc interpeller le maire de Nieppe donc, au cours d'une manifestation. Quant à l'éleveur, eh bien, il aurait promis aux riverains qu'il respecterait la réglementation et les normes sanitaires, mais visiblement, ça ne suffira pas à calmer les inquiétudes.
Ouais, ça risque pas, évidemment. Merci beaucoup, Lionel Gougelot.
Bougelot, correspondant Europe 1 dans les Hauts-de-France. Merci à vous. Demain dans le monde, avec Rémi Botsaron. Bonsoir Rémi.
Bonsoir.
Direction Taïwan avec vous. 19 millions de Taïwanais sont appelés à voter demain. C'est l'élection présidentielle. Et comme toujours, la Chine va être très vigilante pour ce scrutin.
Et oui, évidemment, on va faire un petit rappel historique pour bien comprendre l'enjeu. Depuis 70 ans, depuis la fin de la guerre civile, l'île de Taïwan est séparée de la Chine. Politiquement, c'est un territoire qui a sa monnaie, son drapeau, son armée, qui est un allié des États-Unis, qui est puissant économiquement, mais qui reste toujours sous la menace d'une attaque chinoise, puisque Pékin considère que cette île lui appartient et pourrait employer la force si Taïwan déclarait un jour officiellement son indépendance.
Alors, est-ce que cette élection pourrait changer justement les rapports entre les deux voisins ?
Eh bien, c'est bien tout l'enjeu. Il y a d'un côté la présidente sortante qui défend les valeurs démocratiques face à l'autoritarisme de la Chine, et de l'autre, un candidat qui défend un rapprochement avec Pékin pour des raisons, dit-il, économique. La présidente sortante est favorite. Pourtant, elle est la cible d'une campagne agressive sur Internet où circulent des fake news, des fausses informations rédigées parfois avec des mots ou des caractères typiques de la Chine, signe que Pékin s'immisce dans cette campagne, mais les Taïwanais, les jeunes en particulier, semblent hermétiques à cette campagne de propagande et pour cause, comme nous, comme le monde entier, ils ont vu les images de Hong Kong, la contestation qui n'en finit plus. Et si l'on en croit les derniers sondages, cela ne les incite pas du tout à se rapprocher de leurs voisins.
Et pour cause, alors à Taïwan, voter, c'est exister face à la Chine, c'est le titre notamment de Courrier International. Merci beaucoup Rémi Botsaron, on suivra ça. Demain dans nos vies, Théophile Cossa s'est installé. Bonsoir Théo.
Bonsoir Nathalie.
Le rendez-vous pour être vraiment en avance dans le monde de demain, dans nos vies. Ce soir, des toilettes du futur. Non, mais je plaisante parce que avec vous, je m'attends à tout. On pourra peut-être tous demain, non pas chez soi, mais au bureau en avoir.
Oui, Nathalie, alors je vous préviens, ça ne va pas plaire à tout le monde. Figurez-vous qu'une start-up britannique vient d'inventer un tout nouveau modèle de toilettes, des toilettes inconfortables. Alors vous allez me dire, pourquoi inconfortables ?
Quel intérêt ?
Eh bien, pour obliger les employés à rester le moins longtemps possible dessus et booster ainsi la productivité des entreprises. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais un employé passe en moyenne 10 minutes par jour aux toilettes. Vous savez, en traîne sur son smartphone, etc. Bref, à la fin de l'année, si on fait le calcul, ça fait quand même un total de 38 heures passées au petit coin, l'équivalent d'une semaine entière de travail. Évidemment, une perte de temps, donc d'argent, d'où l'idée de designer un trône inconfortable.
Bah, il manquait plus que ça, donc ça va ressembler à quoi, dites-nous tout.
Eh bien, des toilettes classiques, mais penchées en avant, 13 degrés de plus que des modèles traditionnels. Ça peut sembler dérisoire, mais avec cet angle, celui qui est dessus va être obligé de se mettre en tension. Il ne pourra pas s'asseoir normalement et passer 5 minutes, l'assise lui sera tout simplement insupportable. Alors la start-up à l'origine du projet assure que ce n'est pas dangereux pour la santé, que ça permettrait même de réduire le risque de troubles musculo-squelettiques et d'autres désagréments intimes dont je vous passe les détails. Bref, de quoi convaincre la très sérieuse British Toilet Association qui a validé le projet. Ces toilettes sont désormais en vente chez nos amis anglais. Voilà, le monde qui change, Nathalie.
Oui.
J'ai presque envie d'ajouter nos pipis valent mieux que leur profit.
Voilà. Vous l'avez réfléchi. Hein.
Un peu.
Merci beaucoup Théophile Cossa, on n'a pas hâte d'essayer.
Europe 1. À suivre dans un instant, Nathalie Lévy sur Europe 1.
Avec l'interview politique d'Aurélie Herbemont, Benjamin Griveaux, candidat à la République en marche à la mairie de Paris qui va s'installer dans ce studio.
Et votre grand journal du jour, du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy. Avec votre invité du soir, vous recevez un écrivain qui brise la glace ce soir.
Oh là là, quel écrivain, un académicien, messieurs, dames, qui nous écoutez, nos auditeurs, Eric Orsenna est dans ce studio. Bonsoir.
Mais bonsoir.
Mais bienvenue, je suis tellement heureuse de vous avoir dans ce studio.
Et pourquoi j'écris, vous rendez compte ?
Voilà.
C'est pour rencontrer,
avec votre optimisme,
pour sortir de ma solitude, de la glace.
Exactement, voilà. Vous avez bien fait de vous arrêter ici dans notre studio sur Europe 1. Vous allez être avec nous jusqu'à 20h avec ce nouveau roman Brisé entre nous, La mer gelée, ce titre magnifique. On va y venir dans un instant, c'est chez Gallimard. Ça fait 20 ans que vous n'aviez pas écrit sur l'amour. Et encore, j'allais dire sur l'amour fou. Vous allez nous en parler, Eric Orsenna. Je veux tout savoir, à la fois de votre actualité, de votre regard sur l'actualité, votre regard sur la planète, parce que la planète, vous l'explorez, vous la connaissez mieux que quiconque. Benjamin Griveaux, je vous le dis, parce que je vous mets dans la confidence, Benjamin Griveaux est l'invité politique ce soir d'Aurélie Herbemont, candidat à La République En Marche à la mairie de Paris. Vous n'avez pas décidé de soutenir Benjamin Griveaux, mais de vous ranger derrière Cédric Villani. Je me disais que c'était intéressant d'en parler peut-être juste avant de l'accueillir. Il viendra peut-être nous voir si les grèves lui permettent d'arriver jusqu'à nous. Mais du coup, je commençais par ça.
Alors, il se trouve que je ne suis pas électeur à Paris. Je suis électeur en Bretagne, Donc j'ai dit, mais avec grande conviction, que j'aimais énormément Cédric Villani. Mmh. Parce que je suis très admiratif, je ne comprends absolument rien aux mathématiques. Mais il avait fait un livre, un roman sur une sorte d'avancée incroyable qu'il avait inventé comme ça. Et donc je me suis dit, ça serait très passionnant. Voilà. Donc je ne suis pas militant derrière lui, c'est vraiment l'ami. Et au plus, l'admirateur en tant qu'écrivain, parce qu'en même temps, il écrit.
Voilà, il écrit, et puis il est singulier. Il est singulier, et vous aimez les personnages singuliers.
Il est extrêmement brillant. Voilà,
donc,
il est brillant,
ça
et puis il sort une avancée. Je pense que Paris a besoin, justement, d'un peu de nouveauté, et pas forcément de ressembler à tout le monde.
Ah, Paris a besoin de nouveauté. Ça veut dire que, pour l'instant, c'est quand même Anne Hidalgo qui a, j'allais dire, un boulevard devant elle. C'est pas ce qu'il faut pour Paris, selon vous ?
Écoutez, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'elle a fait un travail assez extraordinaire. Ce qui m'intéresse, moi, dans une campagne, c'est qu'on échange les idées. Mmh. C'est qu'après, les électeurs vont choisir. Mmh. Et moi, je ne suis pas électeur. Donc
ce qu'elle a fait de Paris, c'est formidable, c'est ce que vous dites. Aussi bien en termes de voies cyclables, de pistes cyclables que...
Alors, c'est allez-y. Non seulement la question de Paris, ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que j'ai travaillé sur les villes, ce qui m'intéresse, c'est au fond la force de Paris par rapport aux autres villes. Mm-hmm. Vous savez qu'il y a une compétition entre les villes, qui sont des compétitions aussi fortes qu'entre les entreprises, même plus fortes. Et donc, moi, il y a un truc qui me rend fou, c'est que le périphérique, c'est ces institutions. Mm-hmm. Vous avez une région d'Île-de-France, Paris, et puis l'agglo, tout ça, qui rend un peu l'impossibilité de se déployer vraiment. Et donc, je compare les autres villes un peu partout. Donc, l'idée serait d'avoir un espace qui corresponde à l'ambition de Paris.
Alors, on va en reparler évidemment avec vous. Vous regardez de près et vous le racontez d'ailleurs dans ce livre. Vous regardez et vous explorez aussi le monde. Vous avez toujours aimé la mer, les marées, une passion des voyages, tenue héritée de votre papa.
Oui, hérité de. Au fond, c'est drôle parce que ma mère, qui était royaliste, me racontait des histoires de rois et de reines. Et mon père me racontait l'histoire de marins, de pirates, de corsaires, de choses comme ça, etc. Donc, au fond, l'une, c'était la géographie. Mon père, c'était la géographie, la mer. Ouais. Et ma mère, c'était l'histoire. Donc,
Finalement,
j'étais bercé.
Exactement.
Et les deux. Et finalement, moi, c'est l'articulation. Et pourquoi je suis romancier ? Parce que j'aime l'histoire.
Exactement.
Mais pourquoi je voyage ? Parce que j'aime la géographie. Merci, papa.
Merci, maman. Et c'est finalement le cocktail aussi que l'on retrouve dans cet ouvrage.
Oui.
D'une certaine manière, Briser en nous la mer gelée, ce roman aux éditions Gallimard, qui est l'amour avec un grand A, comme sait merveilleusement le faire Eric Orsenna. Ça ne nous était pas arrivé depuis 20 ans, vous allez nous dire pourquoi. Et effectivement, la passion de la géographie qu'on retrouve à longueur de page, enfin plutôt dans la deuxième partie, on va y venir. L'amour d'abord, l'amour fou comme vous l'écrivez. 20 ans sans en écrire une ligne, qu'est-ce qui s'était passé ?
Eh bien, peut-être qu'il ne s'était pas passé suffisamment pour déclencher. Et puis, je m'étais fait ce projet à l'âge de 40 ans, même avant d'ailleurs, à l'âge de 30 ans, de dire tous les 10 ans, je ferai un roman d'amour. Pourquoi ? Parce que pour moi, écrire, c'est ma façon de comprendre, et ma façon d'explorer. Alors, de temps en temps, j'explore la planète, et puis de temps en temps, j'explore un sentiment qui marche, qui est réciproque ou pas. Donc, c'est une manière de raconter. Pour moi, ce « il était une fois », c'est ma manière de comprendre.
Ouais.
Donc, il y en a d'autres qui ont des tas d'autres solutions. Moi, c'est « je raconte ». Donc, à 40 ans, j'ai fait l'exposition coloniale, celui qui a
le Goncourt.
C'est une histoire d'amour.
Bien sûr.
Et puis, 10 ans après, j'ai écrit un autre roman qui s'appelait Longtemps. Pas toujours, mais longtemps. Et puis, à l'âge de 60 ans, y avait rien qui se passait trop. Et puis, à 70, je me suis dit, c'est le moment, parce qu'il faut quand même se bouger un peu. Ouais. Parce que peut-être qu'on approche vers la fin. Et comme il y avait quelque chose qui se passait qui était merveilleux, je me suis dit, j'ai eu envie de raconter ce que c'est qu'un sentiment qui emporte tout.
Pas de fin, une telle vitalité avec vous, Eric Orsenna. Vitalité dans les mots, vitalité dans l'envie, dans la vie. Parce que vous êtes vivant, extrêmement vivant. Et moi, je voudrais comprendre alors, parce que dans ce livre, ce roman dans lequel Gabriel, le narrateur s'adresse comme dans une lettre à une certaine Madame Anne Barrère. Vous allez nous en parler, cette magistrate qui va me prononcer le divorce d'avec sa femme Suzanne. C'est le point de départ de toute cette histoire d'amour incroyable. Dites-nous tout. Le personnage, Gabriel, pourquoi ? Quelle est la part de fiction au fond ? Quelle est la part autobiographique ? Parce que,
alors,
évidemment, il y a c'est votre histoire,
alors,
Eric Orsenna.
Vous savez, il y a le cœur, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire, Gabriel, c'est un peu moi, Suzanne, c'est un peu la femme que j'aime.
Que vous aimez.
C'est clair. Et quand vous avez une histoire vraie, elle joue comme un aimant. C'est-à-dire, elle attire les souvenirs, elle attire les rêves, elle attire les possibilités, elle chasse les regrets. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui... Il y a un cœur vrai, et puis le vrai Mais ce qui m'est pas arrivé est pas faux. Simplement, c'est pas à moi que c'est arrivé. Ouais. Et moi, et ce qui se passe avec l'amour, le sentiment amoureux, c'est que c'est quelque chose qui vous rend plus fragile, qui vous rend plus plus ouvert. Et moi, dès que je suis amoureux, que ça soit réciproque ou non, il y a une sorte de d'ouverture. C'est-à-dire, je suis beaucoup plus ouvert au monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça ouvre, donc c'est une exploration.
Je voudrais juste vous poser une question et on va s'arrêter quelques petites secondes, mais pour mieux se retrouver, évidemment. D'abord, ce titre, il est incroyable, Briser en ours la mer gelée. Alors, on va déflorer les choses tout de suite, c'est Franz Kafka.
C'est Kafka mais, qui mais écrivait
pourquoi
un ami.
Vous savez faire des titres merveilleux, vous aussi, Eric Orsenna.
Non, mais Kafka, alors, pour... c'est un autre niveau.
Mais bien
je veux
sûr.
Dire, chacun,
mais, enfin, c'est un autre niveau. Mais, non,
oui,
c'est vous qui le dites. Vous n'aviez pas, en écrivant ce livre, qui est en partie votre histoire, avec cette passion, avec cette fougue, quand vous écrivez, vous n'avez pas été inspiré au point de trouver le titre.
Non, parce que immédiatement, j'ai. Vous savez, un titre, c'est comme une sorte le toit d'une maison. Donc vous habitez sous le titre. Comme vous habitez dans une maison. Et depuis toujours, je me disais, j'essaierai d'écrire une histoire qui permettra d'illustrer cette phrase de Kafka.
Ouais,
c'est-à-dire,
voilà. Voilà.
Un livre doit être la hache pour briser en nous la mer gelée. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'un amour réussi? C'est-à-dire, c'est cette confiance qui permet de se lancer. On a tous en nous une mer gelée. Il faut la briser.
Il faut la briser.
Et qu'est-ce que c'est qu'un amour
réussi?
C'est quand brutalement soi, on sent que la mer gelée se brise. Et ce réchauffement qui peut arriver petit à petit.
Eh oui.
Donc c'est pour ça que, vous voyez, c'est une histoire qui correspond à un titre.
Exactement. Vous allez nous en dire plus dans quelques secondes, Eric Orsenna. Vous allez être avec nous jusqu'à 20h. C'est un ravissement. On est très heureux. Brisons-nous la mer gelée, c'est aux éditions Gallimard. À tout de suite.
Et vous aussi, vous pouvez parler, Eric Orsenna, vos questions, vos réactions, vos messages. Nous les lisons en direct sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Et on vous retrouve, Isabelle Millet, pour de nouvelles informations.
Avec la prise de parole d'Edouard Philippe cet après-midi, à l'issue de ses consultations avec les organisations syndicales et patronales, le Premier ministre parle de discussions franches, constructives, utiles. Nous avons bien avancé, dit-il, dans la recherche du compromis, même s'il nous reste du travail. Edouard Philippe qui, demain, par écrit, adressera aux syndicats des propositions concrètes qui pourraient être la base d'un compromis. Propositions qui porteront sur les objectifs et les modalités de la conférence sur le financement. Le chef du gouvernement réaffirme la détermination de bâtir le système universel de retraite plus juste et plus solide. Le procès prévu lundi pour le père Prena, dont les agressions sexuelles présumées sur de jeunes scouts de la région lyonnaise ont déclenché l'affaire Barbarin. Ce procès pourrait être perturbé par une grève des avocats et même reporté d'un ou plusieurs jours. Airbnb signe un gros chèque. 28 000 villes de France ont perçu 58 millions d'euros de taxes de séjour sur les locations touristiques l'an dernier via la plateforme. C'est plus du double du montant perçu l'année précédente. Les sports, le handball, entrée en lice des Bleus dans le championnat d'Europe face au Portugal. Ça se joue en ce moment et c'est serré, c'est même compliqué pour les Français puisqu'actuellement ils sont dominés 21 à 19. En foot, Rennes-Marseille, ce sera à suivre sur Europe 1 à partir de 20h45. Auparavant, 20h10 du volet, les Bleus doivent battre l'Allemagne pour obtenir leur qualification pour les JO 2020.
Merci beaucoup Isabelle Millet. On vous souhaite un très bon week-end à lundi. Évidemment. On a du temps, on a du brouillard ce week-end. Attention d'ailleurs, oui.
Oui, il va falloir faire très attention. Et vous êtes dissipé par Eric Orsenna.
Mais je suis troublée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Il est avec nous jusqu'à 20h. Bon, en attendant, si vous prenez la route demain matin, soyez très prudents. Il y a beaucoup de brouillard sur les Ardennes, des Ardennes au Pays Basque, dans l'Est, sur la vallée du Rhône. La journée débute donc avec des nuages bas, des brumes et des brouillards assez épais. Au fil des heures, cette grisaille va se dissiper. Elle reste tenace, attention à l'Est. Au nord-ouest, en Normandie et en Bretagne, après une matinée lumineuse, là, le ciel va se couvrir dans l'après-midi. Attention au vent qui souffle sur les côtes bretonnes et normandes. Jusqu'à 60 km/h, c'est le vent de sud-sud-ouest. Partout ailleurs, c'est un temps très ensoleillé, surtout au sud, des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur, tout le long de la Méditerranée. Le ciel est bleu demain avec un très beau soleil. Le Mistral et la Tramontane se lèvent demain jusqu'à 60 km/h en rafale.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec votre invité Nathalie Lévy. Nous découvrons son tout nouveau nouveau livre, un roman d'amour, Brisé en nous la mer gelée, paru chez Gallimard. Vous recevez l'académicien Éric Orsenna.
Académicien, politique, écrivain, économiste, il est complet Éric Orsenna et en plus c'est quelqu'un d'optimiste, ce qui nous fait du bien ce soir particulièrement. Je donne une information, permettez-moi Éric Orsenna, aux auditeurs parce qu'on avait annoncé Benjamin Griveaux, candidat à la République En Marche à la mairie de Paris au micro d'Aurélie Herbemont. C'est lundi qu'il sera dans ce studio, chose promise, chose due, à 19h10 parce que voilà, une fois encore, la grève l'a empêché là ce soir dans la capitale d'arriver jusqu'à nous. Donc c'est remis à lundi. Il sera là pour répondre aux questions d'Aurélie Herbemont. Benjamin Griveaux, comptez sur lui. Je voudrais revenir évidemment, Éric Orsenna, sur votre livre Brisé en nous, la mer gelée, parce qu'il est atypique à plus d'un titre. Il est aussi formulé au départ comme une lettre à Anne Bérard, vice-présidente des affaires familiales, tribunal de grande instance de Paris, qui vous divorce en octobre 2011, mais qui aurait bien voulu vous en empêcher, en quelque sorte, qui est sorti de sa réserve réglementaire pour vous faire passer un message.
Vous savez, au fond, qu'est-ce que c'est la justice ? La justice, c'est soit quelque chose de mécanique, ou soit quelque chose d'humain.
D'humain.
Et elle rencontre cette magistrate, elle rencontre deux personnes qui manifestement n'y arrivent pas. Vous savez, comme des engrenages qui s'affrontent pointe contre pointe, au lieu de pouvoir articuler et avancer ensemble. Et elle dit, mais quel dommage. Et elle pense ça, quel dommage. Et elle le dit. Et je trouve cette conception de la justice magnifique, parce qu'elle dit, mais quel gâchis.
Elle n'a pas pu s'empêcher.
Une magistrate aux affaires familiales est là pour protéger, mais elle est là aussi pour empêcher des gâchis de toutes sortes. Et vous savez, quand on a vu que les audiences, quand vous aviez un consentement mutuel, ça a été supprimé, ça a été mécanisé. Ouais. On passe juste devant le notaire, on dit bon voilà, on en a marre.
Il n'y a plus de dialogue.
Et donc, et c'est pas vrai. On peut pas. C'est comme
vous savez, c'est pas manichéen.
Vous savez, oui. Et puis vous savez, c'est comme quand vous avez des standards automatiques. On a envie d'avoir un être humain. Parce que l'être humain, il vous change, on est des êtres humains.
Et alors, je voudrais savoir, donc ça, c'est la partie autobiographique, hein, qu'on soit bien d'accord. Elle existe véritablement, cette Anne Bérard, Madame Cerutti aussi, sa greffière. Et comment elles l'ont reçue ? Comment elles ont reçu, du coup.
Écoutez, alors, elles m'ont dit, parce que je l'ai vu. Et alors, c'était très émouvant, parce que d'abord, on était émus, parce que grâce à elles, nous avons fait ce parcours. C'est-à-dire, il faut dire que cette magistrate, magnifique, mais en tant que magistrate, dit à quelqu'un, mais franchement, vous voulez divorcer, bon, très bien, mais je sens tellement d'amour en vous. Donc, donnez cette chance à ça. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, la justice. Et il se trouve que je connais un peu la justice, ouais, parce que j'étais 25 ans magistrat, conseil d'État. Donc, c'est autre chose. C'est la justice administrative, mais on n'est pas des machines. Et on ne doit pas être remplacé par des machines. Ce n'est pas des robots, c'est des êtres humains qui parlent à des êtres humains.
Exactement.
Donc, en tant que magistrate, elle disait, mais ça ne m'est jamais arrivé. Oui, qu'on me dise merci.
Bien entendu.
Et moi, je lui ai dit, j'avais envie de dire merci. Ouais. Parce que ma maman, celle qui était royaliste, m'avait appris à dire merci. Tu dis merci au monsieur, tu dis merci à la dame.
Bien sûr.
Là, c'est le plus grand merci que j'avais besoin de dire.
Merci.
À la dame qui m'a fait le plus grand cadeau en disant, arrêtez, continuez.
Éric Orsenna, il y a l'amour dans ce livre, il y a la mer, les marées, les bateaux, c'est ce que je disais, les voyages, évidemment. Et si je vous interroge là-dessus, c'est parce qu'il y a 6 mois, je crois que vous étiez en Australie. Et on regarde l'Australie ravagée chaque jour un peu plus. On voit ces images de 6 millions d'hectares dévastés, même au-delà maintenant. Sauf que l'Australie, elle rechigne depuis des années à prendre des mesures contre le gaz à effet de serre. Elle est aujourd'hui la première victime de sa politique, Éric Orsenna.
Exactement. Ce qui est très frappant avec l'Australie, il se trouve que je connais bien les questions des matières premières, notamment bien les questions de l'eau, parce que j'étais longtemps professeur des matières premières, qu'on a créé avec la Compagnie du Rhône une initiative pour l'avenir des grands fleuves sur la rareté de l'eau. Et l'Australie, c'est très particulier, parce que c'est un territoire dans lequel tous les habitants adorent la nature. Ils vont sur les plages, ils font du trekking, ils adorent la nature, ils aiment les animaux. Et en même temps, leurs dirigeants sont ceux qui l'agressent la plus, puisque le premier port d'exportation du charbon, c'est Newport où j'ai été, et c'est le premier port.
C'est
et
ça.
Les responsables politiques sont des gens qui nient ce qu'ils voient.
Ça y est, d'ailleurs, la population tend à se réveiller.
Enfin.
Mais donc, elle est responsable, là, aujourd'hui, de son carnage. Elle est responsable.
Exactement.
Les yeux grands ouverts.
Je suis en train de préparer un livre sur les questions d'eau. Et alors, ce qui est intéressant, et même en même temps terrifiant avec l'Australie, c'est que l'Australie, c'est le laboratoire de la rareté, Parce que c'est comme, vous voyez, si c'était un bateau qui était en avance sur nous, c'est-à-dire qui racontait notre proche futur si on continue à ne pas s'occuper de la nature. Donc, rareté et catastrophe, parce que quand vous augmentez la température, évidemment, les forêts deviennent de plus en plus sèches. Donc, il suffit de rien, d'un rayon de soleil, d'un petit bout de verre, pour que
ça s'enflamme,
des incendies terribles. Et quand on voit, je suis en contact avec une des membres de notre association qui s'appelle Catherine Daniel, qui est un grand professeur, c'est sans doute la meilleure savante sur les questions d'eau en Australie, qui me dit, quand je sors avec mes enfants, c'est comme si je fumais 150 cigarettes. Donc vous imaginez ce que c'est. Elle habite Canberra, la capitale fédérale.
Qui en plein cœur.
Elle a été exfiltrée, on peut dire, parce que c'est une agression. Elle a été exfiltrée où ? À Adélaïde.
Ouais. Voilà le désastre que vous avez pu constater et sur lequel vous travaillez aussi, Eric Orsenna, parce que vous êtes extrêmement complet, bien sûr. C'est pour ça qu'on est d'autant plus ravis de vous avoir ce soir et encore jusqu'à 20h dans ce studio.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et son invité Eric Orsenna se poursuit jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et son invité. Nous sommes plongés au cœur des pages du dernier roman d'Éric Orsenna, Brisé en nous, la mer gelée, paru chez Gallimard.
Éric Orsenna, merci d'être avec nous ce soir. L'actualité, on en a parlé, ce sont les feux en Australie aussi, ce sont les événements en France, le climat social, on va y venir. Et puis Mouna qui nous appelle ce soir de Paris, une auditrice qui aimerait bien vous interroger. Bonsoir Mouna.
Alors, nous connaissons et admirons bien des artistes qui ont commis des actes moralement condamnables, mais dans un cas comme celui de Gabriel Matzneff, qui lui est toujours vivant, quelle attitude pensez-vous qu'il faille adopter et quelle attitude comptez-vous adopter ?
Merci Mouna pour votre question. Votre réponse, Éric Orsenna.
L'attitude, c'est l'attitude actuelle.
C'est-à-dire, par exemple.
C'est-à-dire dénoncer, c'est-à-dire faire en sorte que ça ne se reproduise pas, que la loi du silence soit cassée et qu'il y a eu des tas de femmes qui ont posé la vraie question, notamment Christine Angot, qui a fait un texte magnifique, notamment Sylvie Brunel, qui disait que, évidemment, on savait que c'était insupportable, évidemment. Et que, d'une certaine manière, tout le monde était complice d'un certain moment. Donc, la parole soit maintenant enfin libérée, enfin acceptée, fait que, vous savez, c'est un peu général.
Ouais, c'est
parce
ça.
Que c'est
vous vous mettez donc dedans, Éric Orsenna. Vous l'avez rencontré, vous Matzneff, jamais.
Jamais.
Mais vous saviez.
Jamais. Je savais, parce qu'on savait, parce qu'il écrivait.
Parce que ça se savait.
Tout le monde le lisait. Hein, donc, enfin, il y avait des gens qui le lisaient et qui le savaient. Et donc, c'était
donc
connu,
vous
puisqu'il disait lui-même.
De complaisance du milieu littéraire, des médias.
Mais, vous savez, mais c'est une complaisance des médias, c'est une complaisance dans le cinéma, c'est une complaisance partout, c'est une complaisance dans les partis politiques, c'est une complaisance dans l'Église, c'est une complaisance partout.
Mais c'est aussi une complaisance de la société à ce moment-là,
c'est une
non
complaisance
parce,
de...
que,
oui.
parce que c'est, on n'est pas dans une époque qui juge une autre époque aussi, d'une certaine
si,
manière.
Exactement, exactement. Et puis, c'est une sorte de... Oui, on acceptait un peu tout, la liberté. Vous savez, il y avait une phrase, moi je me souviens, j'avais 21 ans en 68, il y avait une phrase qui est la suivante, c'était « il est interdit d'interdire ».
C'est ça.
Vous savez, le
bien
truc,
sûr,
il est interdit
bien
d'interdire.
Bien sûr.
Et je vous assure, j'ai eu une expérience très inquiétante et très intéressante en tant que magistrat. Il y avait un championnat de lancer de nains. Et un maire interdit dans sa commune ce championnat, une épreuve du championnat de lancer de nains. Et donc, pour respect de la dignité de la personne. Et le nain nous a écrit en disant, écoutez, voilà, moi,
j'ai accepté.
Et maintenant, j'ai plus de travail. Ça veut dire quoi ? Donc, vous voyez, c'était ça l'affaire. Ouais. Donc, ce moment...
Vous voulez dire qu'il faut voir aussi les deux ?
Non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est ce genre de question qui doit être absolument soulevée. Et ça veut dire... C'est ça la question passionnante.
C'est-à-dire ?
Qu'est-ce qu'un consentement ? C'est pour ça que le livre est si...
Bien sûr, c'est
aussi
ce que vous pointez,
fort,
donc.
Parce qu'il pose la question du consentement. Et dire « elle est consentante » alors qu'il est consentant, alors qu'il a 10 ans, 12 ans, c'est faux. Parce que le consentement, ça veut dire que c'est une personne faite, constituée, complète.
Mais c'est toute la question aussi qui a été soulevée en France et où pour l'instant la réponse ne contente pas sur l'âge du consentement.
Non, justement. Alors, justement.
Vous savez, il y a Stock, c'est le quatrième éditeur à cesser la vente des livres de Mats Neff désormais. Donc il est visé par une enquête pour viol sur mineur. Donc c'est pas de la censure pour vous, c'est bien une nécessité alors.
Bah, écoutez, c'est quand même de publier ce genre de texte, c'est quand même accepter ce qui n'est pas acceptable.
Dites-moi, depuis le début de cette affaire, on a découvert aussi, le grand public a découvert qu'il y avait une allocation destinée comme ça à une poignée d'écrivains ayant contribué, je cite, à la renommée de la littérature française mais se trouvant démunis. Une allocation annuelle, renouvelable, créée en 1965, dont Mats Neff était bénéficiaire. Il a touché 160 000 euros depuis 2002. Récemment 6 000 euros contre 12 000 euros par an il y a encore quelques années. Vous la connaissiez cette allocation? Comment ça se fait que le grand public ne savait pas? Et est-ce qu'il faut la supprimer?
Non, le grand public ne s'intéressait pas à ça, ouais. Mais le grand public ne s'intéresse pas d'ailleurs à la vie des écrivains.
Non, mais le système n'est quand même pas super transparent. En tout cas.
Alors que la question qu'il y ait une allocation pour les artistes, quels qu'ils soient, un peu nécessiteux, et ce qui arrive souvent, pourquoi pas? Mais que ça soit beaucoup plus transparent et que les critères soient beaucoup plus connus et qu'on regarde
précis,
un peu ce qui se passe.
Et
que ça ne soit pas le copinage, voire des mafias de toutes sortes, bien sûr que non.
Donc il faut supprimer cette allocation à Mats Neff aujourd'hui?
Non, moi, ce n'est pas à moi de décider ça. Mais de toute façon, je ne sais pas du tout s'il la reçoit encore. En tout cas, le principe même, pourquoi pas, la modalité d'application de ce système, bien sûr que non.
Le ministre de la Culture, Franck Riester, y est favorable, en tout cas, cette suppression en ce qui concerne Mats Neff. On se retrouve dans un instant. Éric Orsenna, Brisez en nous la mer gelée, votre dernier roman aux éditions Gallimard. Vous êtes avec nous jusqu'à 20h.
Grand journal du soir avec Nathalie Lévy. C'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir. Nathalie Lévy, votre invité, Éric Orsenna, l'académicien qui vient de sortir Brisez en nous la mer gelée chez Gallimard. Reste jusqu'à 20h pour déguster les bons produits de Marion Sauveur.
Et oui, merci Éric Orsenna de jouer le jeu. C'est vrai qu'on est incorrigible le vendredi quand Marion Sauveur s'installe dans ce studio. Alors là, cette fois-ci, avec des pains magnifiques, forcément, on craque.
Évidemment. Bien sûr. Il n'y a pas que la glace qu'on brise.
Exactement. Hello Marion, bienvenue. Marion, demain se tient Europe 1, salon professionnel de la boulangerie-pâtisserie. Ça se passe à Paris. Et à cette occasion, vous arrivez donc avec des pains magnifiques. C'est vraiment un de nos péchés mignons, le pain.
Oh mais oui, qu'est-ce que j'aime moi, cette odeur de pain chaud, la croûte qui croustille. Et puis l'ami moelleux, c'est un vrai plaisir gustatif, ce pain. Et puis, regardez, comme le dit ma grand-mère, le pain n'a pas de maître sur la table. Alors servez-vous, vous avez du pain aux fruits secs, noisettes, abricots, figues, du pain à l'ancienne, de la meule au levain et cette fameuse baguette de tradition. Alors moi, je ne fais pas un repas sans pain et vous, Éric Orsenna?
Jamais.
C'est
jamais.
Important. 98% des Français consomment du pain.
Oui, je fais des repas avec que du pain.
Aussi. Mais vous avez raison.
Aussi.
Pain beurré quand même,
que
pain beurre.
Que du pain, que du pain, rien. S'il y a du beurre, c'est mieux.
Ah oui.
Et s'il y a du miel et la confiture, fromage.
Ah mais oui.
Fromage.
On n'est pas français pour rien.
Avec un petit ballon de... Non.
Oui.
Avec modération.
Avec un ballon
Modération, mais récidive.
C'est vous qui le dites.
Alors le pain, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange tout simplement de farine, d'eau, de levure, de sel. Et cette recette, eh bien, elle ne date pas d'hier puisque les premières traces de pain remontent à il y a plus de 14 000 ans en Jordanie. On a retrouvé en fait des traces de galettes de céréales broyées entre deux pierres, mixées avec des tubercules pour obtenir cette sorte de pain plat et qui était cuit alors, soit sous la cendre ou sur des pierres brûlantes. Le pain était représenté pour la première fois dans l'Antiquité par les Égyptiens. Ils faisaient notamment des pains aux dattes ou au miel, un petit peu comme celui que vous êtes en train de manger, Anissa.
Il est délicieux.
Alors ce sont les Grecs, les Romains qui vont améliorer les techniques pour obtenir la farine. Au IIe siècle, on dénombre déjà 72 variétés de pain à Athènes. C'est incroyable. Ouais. Et c'est Jules César qui va nous amener le pain en Gaule. Le métier de boulanger va naître au 8e siècle et le pain est un aliment essentiel au repas des Français, mais il coûte très cher du Moyen-Âge jusqu'en 1791 où l'Assemblée constituante impose des prix obligatoires et la fabrication d'un seul type de pain, c'est le pain d'égalité.
Ah, c'est fou. Alors attendez, pardonnez-moi Marion, je vous laisse respirer, je mâche en même temps, mais correctement, j'essaie de faire ça correctement. Et j'ai lu, Éric Orsenna, que vous rêviez de finir votre vie comme paysan.
Évidemment.
C'est ça, au contact de la nature, du pain, des vraies choses.
Ça, et je suis en lien avec beaucoup de paysans et je vois ce qui permet de faire du pain, ce qui permet de faire du bon pain. Et avec les boulangers. Et regardez à quel point la qualité de la boulange s'est améliorée. Parce que là, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus. Et maintenant, c'est incroyable. Moi, je suis entouré, là où je suis, de meilleurs ouvriers de France. Et j'ai un respect pour ces gens, mais infini. Quel que soit le métier, être le meilleur.
Quel
et avec,
travail.
Je suis jaloux du petit col bleu-blanc-rouge. Vous voyez le petit col bleu-blanc-rouge?
Mais oui,
comme
bien
ça.
Sûr.
Alors, alors, meilleur
on
ouvrier de France.
On les salue,
là,
évidemment, on est très fiers.
C'est une capacité de draguer totale quand vous êtes meilleur.
Je suis d'accord.
Comment dire non? Vous cédez.
Ah, oui,
vous cédez à quel point? Évidemment.
Alors Marion, avant de céder, parce que vous nous avez refait l'historique, et la baguette alors, on voudrait savoir aussi quand est-ce qu'elle apparaît.
Eh bien, on ne sait pas vraiment en fait quand est-ce qu'elle est née, notre fameuse baguette française. On pense que c'est au début du 19e siècle. Alors certains racontent qu'elle aurait été créée pour les soldats de Napoléon III, pour qu'ils puissent transporter facilement leur pain en le mettant simplement la baguette dans la poche de leur pantalon. Alors ça ne paraît pas vraiment crédible hein, quand on a analysé après les uniformes.
C'est au fond le premier portable.
C'est ça.
Voilà. C'était le
pain.
Le voir comme
ça. Alors d'autres disent que ça vient du pain viennois, vous savez, ce pain cuit à la vapeur et qui a été découvert à Vienne et importé en France justement au début du 19e siècle. Ce qui est sûr, c'est que son succès a bondi dans les années 1930, d'abord dans les villes, et puis elle a fait face bien sûr à la concurrence, la ficelle, la fougasse, le pain de seigle. Aujourd'hui, il y aurait plus de 300 variétés de pain en France et chaque Français mange 58 kilos de pain chaque année. C'est très peu en fait, parce qu'on en mangeait trois fois plus il y a seulement 20 ans.
Et qu'est-ce qu'on nous envie, qu'est-ce qu'on nous envie et les boulangeries qui fonctionnent si bien à l'international.
Bien
évidemment, c'est parce qu'on le fait bien ce pain.
Mais oui, on le fait super bien ce pain. Mais vous savez qu'à l'étranger, on mange encore plus de pain qu'en France. Par exemple, les Turcs qui consomment 120 kilos de pain par personne et par an. Alors leur pain national, c'est le ekmek, un pain au levain, rond tout plat. Et puis, il y a du pain, bien sûr, partout dans le monde, que ce soit au Maghreb, qui est réalisé avec la semoule de blé. Ce sont généralement des pains plats aussi. En Afrique subsaharienne, des pains à base de manioc, de maïs, de bananes plantains. On trouve même au Cameroun de pain à la patate douce. En Amérique centrale, ce sont les galettes de maïs. En Amérique du Sud, on a des pains à base de pommes de terre, comme au Chili. Et puis en Asie, on a bien sûr les nanes.
En Inde, parfois au fromage.
Pas vraiment en Inde. Mais en Chine, on trouve aussi du pain en rond qui est cuit à la vapeur. Ce sont des petites boules qu'on trouve même farcies. Et puis, des baguettes.
Bah oui, évidemment. Merci beaucoup Marion. Vous nous dites tout sur le pain. On adore ça. On est évidemment fascinés par la beauté aussi de ce pain. Marion, on vous retrouve demain auprès de Laurent Mariotte à la table des bons vivants.
Bien
le programme.
Sûr. Le programme, la charcuterie corse. On parlera du plaisir de manger et on retrouvera Julie Andrieux avec aussi Yves Dordevoorde qui va nous donner envie de manger de l'huile de foie de morue, vous allez voir. Et je voulais juste remercier Fabrice Leroy, le boulanger de quartier du 12e arrondissement qui fournit l'Élysée puisqu'il a gagné le concours de la meilleure baguette de Paris et qui nous a fourni ce pain ce soir. Un travail extraordinaire.
On le remercie, évidemment. On le salue, bien entendu. C'est à partir de demain à 11h. Merci beaucoup.
Oui.
Marion Sauveur, vous nous en laissez un petit peu pour le petit-déj de demain.
Mais bien sûr.
Dites-moi, Éric Orsenna, une dernière question, très rapide.
Oui.
Parce que, évidemment, vous êtes un amoureux de la planète aussi.
Oui.
On parle, Emmanuel Macron, là, parle ce soir climat, devant 150 personnes, la Convention collective des citoyens.
Oui.
Vous avez été un des premiers à le soutenir.
Oui.
En termes de climat, il fait le job, jusque-là.
Écoutez, moi je voudrais qu'il fasse plus et qu'il fasse plus vite. On va voir ce que c'est ce système de 150
citoyens
tirés au sort. Je dois dire que je suis un peu à l'ancienne et que moi j'aime la démocratie représentative.
D'accord.
C'est-à-dire avec l'élection sur un programme et pas tiré au sort. Et donc je pense qu'on est face à un défi énorme.
Vous le soutenez toujours
et pourquoi, oui, je le soutiens, mais je soutiens, j'ai toujours été libre. Vous savez, j'ai très souvent refusé d'être ministre, donc je préfère être libre. Mmh. Et un écrivain doit être libre, voilà, avec des limites, comme on l'a vu précédemment.
Merci beaucoup Éric Orsenna. Merci d'être venu passer près d'une heure avec nous. Briser en nous la mer gelée aux éditions Gallimard.
Dévorer chez nous le pain grillé.
Voilà. Magnifique. Magnifique. Émilie Mazoyer, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue. Alors, votre programme ce soir.
Bah écoutez, moi, je suis de l'école d'Éric Orsenna, donc on n'a pas tiré au sort l'invité. Effectivement, on l'a choisi. C'est une jeune femme qui s'appelle Vanille. Elle l'a chanté en duo Fais-moi une place avec son papa. Pas Julien Clerc.
Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid.
Si.
Et tout m'est égal, tout à part toi. Je t'aime.
Voilà, Vanny, elle a sorti son premier album qui s'appelle Amazona. Elle s'apprête à donner un concert à Paris au Hasard Ludique le 29 janvier. Elle sera notre invitée ce soir dans Musique.
Ça va être poétique, oui, entre autres. Bien. Merci beaucoup. Merci, Émilie. On va vous écouter attentivement avec votre invité. Merci infiniment, Eric Orsena. C'était un bonheur de vous avoir ce soir en studio. Revenez quand vous voulez. Merci à tous. De chaque côté de la vitre, de ce studio et de l'autre côté, demain. Non, pas demain.
Non,
demain, lundi. Ça va, on break. Lundi.
Demain, c'est
rendez-vous 18h-20h sur Europe 1. Merci, Anissa, pour écouter. Et bien sûr, ensemble, le monde changé.
C'était Nathalie Lévy. Europe 1.